Nouvelle émission qui arrive, attention, fin du suspense dans quelques heures, qui arrive vendredi, émission hebdomadaire que je vous propose, nouvelle émission donc sur Twitch à compter de vendredi, ce vendredi prochain. Je vous montre hop, le tweet un peu mystère, puisque le principe, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais le mystère repose sur le nom des trois premiers invités, puisque chaque vendredi à 20h, à la maison, tranquillement installé dans la salle à manger, pas trop loin de la machine à café et du frigo pour ceux qui voudront une bière par exemple, eh bien on reviendra sur l'actualité de la semaine, qu'on aura déjà traité ensemble, mais avec trois nouveaux regards, trois invités, ou des journalistes, ou des gens passionnés d'actualité. Trois premiers invités déjà calés depuis un petit moment, vendredi 20h avec moi. Hélène, mon amoureuse, m'a laissé squatter la salle à manger tous les vendredis soir 20h, elle est vraiment très cool avec moi. Trois points d'interrogation, et ce soir, aux alentours de 20h, eh bien je dévoile le nom des trois premiers invités. Voilà, pour le suspense. Mais vous aurez ça ce soir 20h. Voilà. Bon, ça va vous sinon? Merci pour les subs de bon matin, vous êtes vraiment adorables. Merci NTG18 pour les bits. Merci Janvier TV pour le Prime. Merci Chemical What the Fuck pour le 12e mois. Moi aussi très heureux que tu sois avec nous. Merci Sigurbjorn, beaucoup d'habitués. Merci pour le 6e mois d'abonnement. Que coucou à toi aussi. En balade 61 pour le 6e mois, je te remercie. The Servalou, merci pour le 3e mois d'abonnement, vous êtes trop gentil. Et à l'instant, Bordolaise, 2e mois d'abonnement. Merci pour le gentil message. C'est parti pour un vol d'infos. On va se régaler. Version papier, ce matin, pas version numérique, parce que je suis passé à France Info. Je les ai lus pour les téléspectateurs de France Info et de France 2. Je vous les lis maintenant, mais alors, beaucoup plus longuement, bien sûr. Alors, je suis perdu avec tous les subs. Attendez, je vais essayer de rattraper mon retard. Noix de Coco 83, merci pour le 12e mois d'abonnement. C'est adorable. LTDXYT, je ne sais pas comment prononcer, mais je te remercie pour le 6e mois. Le 5e mois, merci Shakiron pour ton Prime. Oh. Avec un peu de moquerie. Oui, le retour de la caméra zénitale dans un instant. C'est toujours un plaisir de soutenir un jeune streamer aussi qualitatif, écrit Chat qui ronfle. Merci pour le jeune streamer. Ça revient quand, Question pour un champion? Question pour un champion, c'est tous les soirs, y compris l'été, avec des nouvelles émissions inédites qu'on a enregistrées avant les vacances. Donc, c'est jamais parti. On est même un des seuls jeux de la télévision française à être en inédit toute l'année. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de pause, c'est que du frais tous les soirs, il n'y a jamais de rediff. Et les enregistrements et nouveaux enregistrements, je pense que c'était ta question, ça repart la semaine prochaine. Voilà. Allez, je vous lis un petit peu parce que ça me met très bonne humeur et on démarre, je vous fais un petit sommaire en musique dans un instant avec tous ces journaux. Il y a des trucs plutôt sympas d'ailleurs. Wise67, merci pour le 6e mois d'abonnement. Alors, qu'est-ce que ça raconte, vous? Bonjour tout le monde, je suis en vacances sur Toulouse, des idées de choses à faire aujourd'hui. On ne sait jamais si un viewer a une idée. Vesunaa, c'est le pseudo avec deux A à la fin, V-E-S-U-N-A. Si vous êtes du côté de Toulouse ou vous connaissez la région, n'hésitez pas. Crise32, remercie Annie pour un abonnement qui a été offert il y a un moment. Qu'est-ce que ça raconte? Il y a Julien qui pose une question très intelligente. Est-ce qu'on peut avoir un des invités de vendredi soir en exclu pour les matinaux? Non, ce serait plutôt... Non, parce que c'est marrant de voir les trois d'un coup, en fait, parce que je compose ces plateaux d'invités comme un bouquet de fleurs avec différentes sensibilités, peut-être différentes générations, différents regards sur l'actualité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les trois d'un coup, vraiment, quoi. Et donc, je n'ai même pas chargé le visuel là, sur le PC, donc je ne pourrais pas vous les montrer en exclu. Peut-être à la fin du stream, peut-être une petite exclu, mais dans ce cas, je vous donnerai carrément les trois. Voilà, mais c'est dans 3 heures, il faudra vraiment être patient. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Je vous lis un petit peu. Il faudra rajouter ce nouveau rendez-vous sur ta page Wikipédia. Quand il y aura des articles dessus, me dit Pronoia. C'est pas moi qui rajoute des choses sur ma page Wiki. Hein. Je crois que c'est pas très bien vu, et c'est normal d'ailleurs que le principal intéressé ne soit pas le contributeur de sa propre histoire sur Wikipédia, c'est très bien comme ça. On n'en peut plus de ce teasing, dis-nous tout. Allez, en fin de stream, je vous dévoile en avant-première pour vous, donc dans 3 heures, les noms des trois premiers invités. Allez, vous m'avez convaincu. Voilà. Bon, je ne vous montrerai pas le beau visuel, parce qu'il n'est pas chargé sur le PC, il est sur mon Mac à côté, mais je vous donnerai les trois noms. Voilà, je pense que ça va vous faire plaisir. Est-ce que tu vas faire un gâteau d'anniversaire pour ta prochaine année de stream? C'est pas prévu, mais c'est une idée. Telou, c'est une idée. C'est une idée. Bien ma journée de rentrée. Merci Lily, plus de demander. Ben, toujours un peu de stress. Hein. Je break pas mal l'été, moi, depuis quelques années, de France Info, de France Télévisions, pour passer le maximum de temps en famille. Je n'ai pas breaké de Twitch, puisque j'ai streamé tous les jours quasiment de cet été. Ça m'a fait bien plaisir, d'ailleurs. J'ai passé de bons moments avec vous. Mais du coup, il y a toujours, même si cette matinale, je la présente depuis 6 ans, non, depuis 5 ans, et c'est ma 6e saison de matinale de France Info, voilà, je la connais un petit peu bien, mais malgré tout, il y a toujours un petit stress, est-ce qu'on a perdu les automatismes ou pas. L'actu, je m'interrogeais pas trop, parce que j'ai vraiment suivi l'actu à mort cet été, donc j'étais bien sur le coup, mais non, ça, c'est comme le vélo, ça revient tout de suite. Et c'était un plaisir. Plaisir. Bobo Dev me demandait des nouvelles de ma rentrée, ça s'est très bien passé. Et Hazard01 qui est en train d'ouvrir 550 mails après 3 semaines de vacances, je suis sûr que ça parle à plein ça. Knarfi59, merci pour le Prime à l'instant, c'est super gentil. Allez, un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps parce que je vois plein de bonjours un petit peu exotiques, lointains depuis tout à l'heure. J'ai vu un bonjour d'Osaka, je vois un petit bonjour de Munich de la part de Teguieds. D'où êtes-vous? Racontez-moi d'où vous êtes et puis on part pour le sommaire de la matinée. Etienne, toute l'info. Allez, let's go. Oui, Malo va passer par un quiz Pokémon, je pense qu'il va passer sa tête. Il m'a demandé tout à l'heure, je l'ai croisé, il est parti faire des courses. Avec la nounou. La Ciotat, Rouen, vont regarder de Lyon, d'Amiens, de Rouen, de Montréal, yes, de Metz, du Havre, de Caen, de Lyon, de Montpellier, depuis le bureau, me dit Dark Veneno, Épinal dans les Vosges, je vois un bonjour de Dublin, de la Station Spatiale Internationale, on ne perd pas les bonnes habitudes, c'est très sympa de savoir qu'on nous regarde de là-haut, bonjour de Lille, de Bourg-la-Reine, de Rennes avec un petit cœur, de Cholet, de Rouen, de Millau, ah, les 100 km de Millau, c'est bientôt, c'est la fin du mois de septembre, je crois, très belle course. Bonjour, c'est la course à pied, hein. 100 km, c'est pour les Bargeaux. J'ai un copain que j'ai vu hier qui va le faire. Ben alors lui, c'est un champion, il va claquer ça en 8h30, 9h, c'est un fou. Je vois un bonjour de Lyon, de Belgique, de Poiré-sur-Vie, Montreuil-sur-Mer, Pontoise, Vitré, je connais bien Poitiers, Bruxelles, amis belges, je vous salue. Le Jura, c'est magnifique. Le Chalard en Ardèche, c'est magnifique. L'Essonne, c'est magnifique. Je suis obligé de le dire pour tous maintenant. Nantes, Namur, un bonjour exotique de Lyon. Il y a des aspects exotiques à Lyon. Bonjour de Bajaïa en Algérie. J'espère que je prononce bien. Merci d'être avec nous à tes souhaits. Un coucou depuis le vol Air France 022 pour New York. Il y a Internet dans l'avion, nous dit Yann JFR. Oh, la technologie! On nous regarde, on s'est fou. Hein, souvent on rigole en évoquant ceux qui disent me regarder depuis la Station Spatiale Internationale, Nord. On nous regarde depuis les vols maintenant, oh, c'est fou, c'est de folie. Bonjour du dernier de Ligue 2. Ah. Je ne l'ai pas en tête, le leader je l'ai, le dernier, attendez, qui nous dit bonjour du dernier de Ligue 2? Alors Ligue 1, est-ce que l'équipe me met un petit récap de Ligue 2? J'espère quand même, sinon c'est la honte. Je ne sais pas qui est le dernier de Ligue 2. Bonjour de Saint-Étienne. Ah, putain, Saint-Étienne. Ils ont passé l'an dernier en lanterne rouge de Ligue 1 et ils sont lanterne rouge de Ligue 2. Oh, yo. J'avais pas vu ça. Oh, yo. Soutien aux supporters de Saint-Étienne. Allez, les Verts. Allez, encore quelques petits bonjours de Cork en Irlande, en télétravail, la chance, la matraque. De Rennes, de Lyon, de Léognan, de Plormal, pas très loin de ta ville de naissance. Ouais, pas très loin, c'est vrai. Liège, Toulouse, Lyon, Rennes encore. Ah, les Bretons sont là. Je t'écoute depuis les Chantres, Chartres et Orléans, Namur en Belgique. Je prononce très mal, je pense, ma Frama 85. Machelen, est-ce que c'est un des, comment on dit, des quartiers de Bruxelles, c'est ça? Les Arcs, Périgny-sur-Auxerre, Metz, Rouen, Barcelone, Bourg-en-Bresse, parce qu'on ne dit pas Bourg-en-Bresse, on dit Bourg-en-Bresse. Les puristes le savent, les habitants aussi, Belgique. Je suis de Vincennes, Annecy, on dit Osaka, je sais, à chaque fois j'hésite. Et non pas Osaka, merci SGD, qui nous dit bonjour de Lille. Oui, c'est vrai qu'on dit Osaka, tout à fait. Porte-les-Valence, hey, moto 925, tu sais que je connais par là, Pas loin de Valence d'ailleurs, dans la Drôme, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour de Rennes, je ne sais pas si tu connais, pas trop, non. Bonjour de Saturne, c'est originel. Je vois un bonjour d'Ajaccio, de Vannes, de la route d'Arras à Quimper, c'est de plus en plus précis. Bientôt, vous m'enverrez des photos. Bon, c'est cool, merci. Ah, ça nous fait voyager, à peu de frais. Captain Fastoche, merci d'être avec nous, merci pour ce 6e mois d'abonnement. Les habitués sont là, Loloken2501, abonné depuis 1 an désormais, merci pour le gentil message qui me fait bien plaisir. Je nous souhaite de nombreuses années de streaming, c'est adorable. Frochet, j'ai vu ton sub tout à l'heure, merci pour le 7e mois d'abonnement. Knarfi59, j'ai un doute, je ne sais plus si je t'ai remercié. Merci. Bon, vous êtes prêts? La matinée Étienne, pour ceux qui sont pour la première fois avec moi, je vais y arriver. Le réveil est sonné à 1h45 ce matin, donc parfois les mots s'entrechoquent dans ma bouche. C'est en trois temps. Premier temps, alors là, comme je suis à France Info ce matin, je vous ai ramené les versions papier des journaux qu'on va lire avec la caméra. Attention, zénital. C'est magique, c'est technologique, c'est superbe. C'est moi qui ai tout fait. On commence par un sommaire en images, c'est-à-dire que je vous montre toutes les unes en images, sans les commenter. Comme ça, en 2 minutes 30, vous avez l'essentiel de l'actu, ce dont parlent les journaux. Mais évidemment, vous avez juste finalement les infos, mais sans plus de précision. Après, on enchaîne avec un sommaire un peu développé de 15-20 minutes. Pour ceux qui n'ont que 15-20 minutes, ça arrive à nous consacrer, comme ils ont l'essentiel de l'actualité un petit peu plus développé. Et puis après, on lit tous ces articles, c'est ça qui nous emmène aux alentours de 3 heures ou plus. Allez, je vous cale une petite musique et c'est parti pour le sommaire en images. Merci Easy Dad pour ce très gentil 11e mois d'abonnement. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Est-ce que c'est cool? C'est cool. Allez, let's go. Timing presque parfait. Alors là, j'étais en train de vous montrer les articles de l'équipe sur la troisième journée de Ligue 1. Alors, on peut arrêter la musique qui nous servira tout à l'heure pour la petite pause café qui interviendra dans 1h30, 2h. En sport, je vous parlerai aussi de ça. C'est pas moi qui ai roté, bizarrement, c'est la chanson suivante qui commence par un gros rôle, la classe de Caroline Garcia, la française qui est à son maximum, là, à son top. Une renaissance parce que voilà, elle revient au meilleur. Et en revanche, de moins bonnes nouvelles du côté des championnats d'Europe d'athlétisme. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Où est-ce qu'il est le sujet sur l'athlétisme? Ouais. Sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà. Ça, c'est le petit sommaire en image. Donc, vous avez vu ceux qui n'avaient que 2 minutes 30 à nous consacrer ce matin, je ne sais pas moi. Un truc important à faire au boulot, un rendez-vous amoureux, des courses, un rendez-vous chez le médecin. Et ben, vous avez l'essentiel. Alors, vraiment que l'essentiel, hein, c'est très très rapide. Maintenant, on va faire un sommaire un petit peu plus développé. Ok. Pour ceux qui ont allez, 20 minutes à nous consacrer, comme ça vous avez l'essentiel de l'actu, pas de la réflexion sur l'actu, comme c'est un petit peu court, mais de l'actu. Pour ceux qui s'interrogent un peu pourquoi les journaux papier, parce que quand je fais la matinale de France Info, je lis les journaux en version papier le matin à France Télévisions, donc je me lève à 1h45, j'arrive à 2h30 à peu près, sur France Info, et donc je les ramène à la maison, voilà, donc c'est la version papier, et puis pendant les vacances ou le week-end, quand je suis à la maison, je les télécharge, je les achète sur ma tablette. C'est en version numérique. Voilà. Oh, il y a Cyril qui m'accuse de les voler à France Télévisions. Non, c'est mon jeu de journaux, c'est à moi, c'est le mien. Et puis, plutôt que de le jeter après, en plus il est caviardé, il est découpé, il est plein de stabilo, eh bien, je le ramène à la maison pour une deuxième vie de ce jeu de journaux. Voilà, hein, une deuxième vie. Autant dire que c'est un geste écologique. Autant dire que c'est un geste écologique. Ce n'est pas du vol, c'est une contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà ce que je dis, moi. Merci le Justine Show pour le 7e mois d'abonnement, c'est adorable. Merci Natou 221 pour le 9e mois. C'est adorable. Et oui, on recycle. Vous n'avez pas l'air convaincu par mon truc, là. Et la la troisième vie des journaux, est-ce que c'est dans les toilettes, demande Cyril? Est-ce que c'est pour le barbecue? Est-ce que c'est pour la poubelle jaune? Uroa, c'est plutôt ça, ouais. Après, c'est récupération papier. Sachez que les journaux français sont imprimés dans du papier qui est déjà recyclé, par ailleurs. Je ne sais pas si vous le savez. Vous êtes prêts pour le sommaire un peu plus développé? Allez, voilà ce qu'il y a dans vos journaux ce matin. Ouais, let's go. Alors, ce matin, on commence avec le Figaro. Ici, alors pourquoi? Parce qu'on a une rentrée politique là, pourtant on n'est que le 22 août, donc c'est une rentrée assez rapide politique. Pourquoi? Parce qu'on a un premier conseil de ministres de rentrée dès mercredi, c'est dans deux jours. Une rentrée sous pression pour Macron, estime le Figaro. Bah ouais, les dossiers sont nombreux et puis ils sont un petit peu chauds. Je me cale un petit peu. Hop. Prix de l'énergie, urgence climatique, budget, les dossiers chauds s'accumulent pour l'exécutif qui tiendra son conseil de ministres. Deux reprises, c'est ça l'actu politique majeure de la semaine, mercredi, sans majorité absolue, toujours, il n'y a pas eu de miracle pendant l'été, il doit trouver des compromis. On se souvient que avant l'été, le gouvernement a réussi à faire passer un plan sur la crise sanitaire. Et, ah zut, l'autre m'échappe, est-ce que c'était un plan? Ouais, un plan sur le pouvoir d'achat, voilà. Le problème, c'est que les réformes qui arrivent, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, nouvelle réforme, ou encore le budget à passer, ce sera une autre paire de manches et ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est l'heure de vérité, comme le dit Yves Tréhard dans son édito. Voilà ce qu'on lira dans le Figaro. Ah, autre chose, une histoire que j'ai suivie tout ce week-end. J'espère un article ce matin, je l'ai trouvé dans la presse sur cette histoire autour de la première ministre social-démocrate en Finlande, hein, Sanna Marin, jeune femme, qui se voit, comment dire, ciblée par une polémique, vous en avez peut-être entendu parler, après une vidéo qui est sortie sur Internet, alors que c'était une vidéo privée qui n'aurait pas dû sortir. On la voit en teuf, tout simplement. En fait, avec des amis, elle danse, elle boit, enfin modérément, d'après ce qu'elle dit, il n'y a rien de spécial dans cette vidéo, c'est une jeune femme qui fait la fête avec des amis, voilà, comme le dit Marion, cette polémique de merde, cette politique absurde, dit Alpha de Go encore, et donc ça a pris une ampleur de fou. Pourquoi? Parce que ça a été récupéré par l'opposition finlandaise qui essaye d'en faire toute une cuisine. Donc on lira cette histoire. Sachez que elle a décidé de se soumettre à un test de dépistage de drogue pour lever tout soupçon, puisque certains dans l'opposition, notamment du côté de l'extrême droite, ont demandé qu'elle se soumette à un test anti-drogue et elle a décidé de le faire. On aura le résultat dans quelques jours. Cette histoire est un petit peu folle, vous me direz ce que vous en pensez. Ça, c'est dans le Figaro. Je suis content que le Figaro revienne sur cette histoire d'ailleurs, parce que j'avais peur de ne pas trouver un article là-dessus. Libération également sur la rentrée, moins sur la rentrée politique que sur la rentrée sociale. Bon, en même temps, c'est pas très éloigné. L'autre coup de chaud, vous verrez que vos journaux n'oublient pas, bien sûr, cet été complètement fou qu'on a connu sur le plan météorologique, la canicule, les canicules, la sécheresse, les orages, notamment ces orages meurtriers en Corse, et l'interrogation que cela fait porter sur la question du réchauffement climatique. Donc l'autre coup de chaud, c'est un clin d'œil à cette autre actualité, mais là on parle d'un coup de chaud social, avec Libération qui a commandé un sondage à un institut selon lequel 68% des Français, ce qui est un petit peu beaucoup, je vais remercier tous les subs dans un instant, j'avais pas vu, 68% des Français anticipent des mouvements sociaux importants à la rentrée. Inflation, assurance, chômage, retraite, les sujets brûlants, les sujets d'inquiétude ne manquent pas. Donc là, vous avez le dossier de Libération sur la rentrée sociale qu'on lira tout à l'heure, après le sommaire. Et puis, je vous en ai parlé à ceux, les courageux qui étaient avec moi dès 7h le matin, hier dans la matinée Étienne. On va revenir sur cette polémique autour de cette séance de karting à la prison de Fresnes. Donc on a vraiment pris le temps hier d'aller au-delà de des simples images, de la polémique, de réfléchir un petit peu sur ce que ça voulait dire de notre regard sur la prison. On est allé voir les images, voilà, pour aller à la source, pas juste rester sur un tweet rapide comme ça en mode « Ah là là, les détenus font du karting, c'est une honte ». On a essayé de comprendre, on a débattu ensemble, c'était assez intéressant, on a fait un sondage là-dessus. Libération consacre une pleine page à cette polémique. hein, de cette opération qui s'appelait Colantes à Fresnes. Et on a quelqu'un qui est le président de l'Observatoire international des prisons qui dit que Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, par sa réaction, puisqu'il a dénoncé cette opération sur Twitter, le garde des Sceaux, cède à l'agenda de l'extrême droite. Donc on prendra le temps, à nouveau, notamment pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, de revenir là-dessus. Coco, dessinatrice de Libé et de Charlie Hebdo, que j'adore, qu'on a reçu sur cette chaîne d'ailleurs il y a quelques mois et que j'espère faire revenir dans pas longtemps, eh bien, signe un dessin là-dessus, voilà, que je vous montrerai tout à l'heure sur cette question du karting à la prison de Fresnes. Voilà. Chiffon Noir dit, mais quel faux cul. J'espère que tu parles pas de moi. Tu parles du ministre de la Justice. Je flippe d'un coup. Coco, dans une hebdo, c'est bien noté. Janvier TV qui n'a pas raté le clin d'œil. Je remercie les subs. Alixiage, deuxième mois d'abonnement. Le temps passe vite en bonne compagnie, c'est adorable. Ça me rappelle ce vieux boys band là. Ça n'a rien à voir, hein, c'est Alliage. Vous vous rappelez d'Alliage? Pardon, Alixiage, ça n'a rien à voir, mais du coup, ça, j'ai eu un flash. Merci pour le deuxième mois. Caillou, merci pour le prime, c'est adorable. La fille du Père Noël est là avec nous, c'est une habituée, merci pour le huitième mois d'abonnement. Le Justine Show est là pour le septième mois d'abonnement, merci à toi. Et Natou, je crois que je t'ai remercié tout à l'heure. Alia, je vous rappelais. Ah c'est ça, partir un jour. C'est ça, c'est eux qui chantaient ça. Partir un jour, un beau jour. Alia, les plus jeunes, vous ne savez pas de quoi on parle. Et ah non, partir un jour, c'est To Be Free, me dit Tien. Ah oui. Alliage, c'était pas ça. Alors, qu'est-ce que chantait Alliage? Ouais, vous avez raison, c'est To Be Free. Ne confondons pas tout. Heureusement que vous êtes là. On est dans l'info augmentée. Alors, pour le coup, c'est pas moi qui disais partir un jour, c'était quelqu'un dans le chat. C'est quoi? Je confonds les boys bands. Oui, Hazard, c'est pas, je serais pas fier à ta place. Baila. Baila, te quiero amor. Ton souvenir me poursuit encore. Baila, quand tu danses avec moi. Baila. Les plus jeunes, vous ne savez pas de quoi on parle. Vous n'avez pas manqué grand-chose. Toto Java Viewer, merci pour le deuxième mois d'abonnement à l'instant. Bon, le Parisien nous propose, c'est pas inintéressant, mais mais je vous le signale, je vous le lirai pas, mais un gros dossier, 10 bons plans pour une rentrée à prix cassé. On parle de la rentrée scolaire, ça coûte deux bras aux familles, ça coûte très très cher la rentrée scolaire, les fournitures, les cahiers, les livres, les crayons, j'en passe, et des meilleurs. En ce contexte de rentrée difficile pour le budget et d'inflation en plus, parce que tout ça coûte un peu plus cher encore en cette rentrée, eh bien le Parisien propose des astuces aux familles pour réduire la note. Je ne vous lirai pas le dossier, mais je vous le signale pour ceux qui sont intéressés. Non, ce qui m'a plus intéressé dans le Parisien, c'est un sujet international dont on a parlé ce week-end dans les JT, dans les chaînes sur la chaîne d'info en continu. Continue cette question, mais qui a tué? Oui, comme le dit Sœur Grindalf, bon, la rentrée scolaire, les fournitures, c'est un peu un marronnier, quoi. Donc, je suis pas sûr qu'on apprend beaucoup de choses de nouvelles dans le Parisien. Ça, par contre, ça m'intéresse. Qui a tué Daria Dougina? Donc, journaliste, politologue russe qui est décédé samedi près de Moscou dans l'explosion de la voiture de son père, Alexandre Dougin, idéologue proche du Kremlin. Alors, c'est une histoire très sombre, d'abord, qui se traduit par la mort d'une jeune femme. La question est de savoir est-ce que c'était elle qui était visée ou son père, puisque c'était la voiture de son père qui a explosé. Et puis la question est de savoir c'est qui a commandité cet attentat. Est-ce que, d'après Moscou, c'est la main de l'Ukraine, hein, qui aurait frappé sur le sol russe, puisque l'idéologue dont on proche là est un fervent accusateur du régime ukrainien. Et alors d'autres disent non, c'est en fait vu l'image à l'international qu'envoyait cet Alexandre Dougin de la Russie, hein, une Russie extrémiste. Eh bien, est-ce que ce ne serait pas Moscou? Disons les choses. Poutine, qui aurait... Alors là, on est vraiment dans le conditionnel absolu. Hein. Je vous parle juste des pistes qui sont évoquées en ce moment. Aucune info, aucune certitude. Qui aurait commandité ce meurtre pour se débarrasser d'un homme, d'un idéologue gênant en termes d'image à l'étranger et, dans un deuxième temps, en accusant en plus l'Ukraine, peut-être l'occasion de durcir encore la guerre dans le pays. Donc voilà, beaucoup d'interrogations. Quelqu'un me disait... dans le chat, et je l'ai vu, hein, ça m'a intéressé, que c'est Icarus Callisto qui disait que l'attentat avait été revendiqué par un groupe paramilitaire russe. Bon, alors, je vais aller voir cette info que je n'avais pas ce matin. Est-ce que cette info est juste? Alors, Douguina, Daria, et que vaut cette revendication? Parce que vous savez que c'est pas parce qu'un groupe revendique une action que c'est lui. Je vais taper revendication. Qui l'a commis, hein, parfois c'est juste pour bénéficier du revendication. Est-ce qu'on a une actu là-dessus? Actualité. Je l'ai pas cette revendication. Je l'ai pas. Je l'avais pas ce matin sur France Info. Je ne sais pas où tu l'as cette info. Je la trouve intéressante, mais je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Cette revendication. Je ne la trouve pas. Vous l'avez, vous? L'armée activiste russe, l'armée nationale, ça s'appellerait. Merci, vous. Prenons le temps, prenons le temps, prenons le temps, prenons le temps. Prenons le temps. Ok, là, comment tu dis l'armée? L'armée nationale. Ok. Allons voir si on trouve des sources. Ok. J'ai un papier dans la presse belge qui en parle. Ouais. Pas beaucoup de sources, hein, vous savez. Moi, je suis un peu prudent par rapport aux informations. Bon, déjà, là, on est sur des hypothèses. Et effectivement, j'ai un papier dans la presse belge, donc on va mettre au conditionnel, qu'on va prendre avec beaucoup de prudence, qui est ici. Voilà. Un groupe de partisans
Staline et le
russes,
ciel bleu.
ta gueule la pub, revendique l'attaque contre la fille du nationaliste russe Alexandre Douguine, donc groupe baptisé l'Armée nationale républicaine, précisément. Ok, l'info n'est pas belge, elle vient de Grande-Bretagne, The Guardian, qui est pour le coup un journal de qualité britannique, donc là la source est intéressante. Selon The Guardian, un ancien membre de la Douma, Ilia Ponomarev, a déclaré dimanche soir sur sa propre chaîne de télévision qu'un groupe russe inconnu, oh ouais, ça fait beaucoup de mystères, hein, l'armée nationale républicaine a revendiqué l'attaque. Ouais, ça fait beaucoup de, hein, beaucoup de flou tout ça. Nous déclarons, dit ce groupe mystérieux, le président Poutine, un criminel de guerre qui a altéré la Constitution, déclenché une guerre entre les peuples slaves et conduit les soldats russes à une mort certaine et insensée. Ce serait donc un acte signé par des Russes anti-Poutine. Selon M. Ponomarev, qui vit à Kiev aujourd'hui, donc en Ukraine, il s'agirait d'un groupe de partisans russes qui tentent de renverser le régime de Poutine par des opérations souterraines. Bon, voici une troisième piste que je n'avais pas encore en tête. Ok, continuons ce sommaire, on n'est que dans le sommaire. En tout cas, merci à ceux qui m'ont signalé cette info qui n'est pas inintéressante dans le chat, mais qui a tué Daria Douguina. On se penchera là-dessus et puis on se fera un petit plaisir aussi parce que de temps en temps c'est bon de respirer. On se fera un petit horoscope pour les plus rapides. C'est un petit jeu, un de nos petits jeux de temps en temps pour nous aérer la tête entre deux actus un petit peu flippantes. Tiens, comme celle-ci, c'est la une de l'humanité. On est toujours dans le sommaire. Pour l'UMA, eh bien, les fascistes sont aux portes du pouvoir. Où ça? En Italie. Je vous ai déjà parlé de ces élections législatives qui arrivent en Italie. Hein, puisque le dernier gouvernement n'est plus soutenu par la coalition qu'il avait portée au pouvoir. C'est un peu le problème du système politique italien, avec beaucoup de proportionnels, donc qui est très démocratique au niveau du vote, mais qui, du coup, crée un système où un gouvernement doit être soutenu systématiquement par plusieurs partis pour pouvoir gouverner. Et le problème, c'est que dès qu'il y a des bisbilles, des tensions au sein de la coalition, eh bien, le gouvernement chute. Ça arrive très, très souvent en Italie. Là, c'est ce qui vient de se passer. Et le problème, c'est... Enfin, le problème. Petit jugement de citoyen de Samuel Etienne. Le problème, c'est que en tête des sondages pour ces élections, eh bien, l'extrême droite italienne qui pourrait arriver au pouvoir. Ces mois où les Italiens ont piqué l'ancien logo du FN. Bonne remarque de Sir Chorao, vous le voyez. Yep, ici, le logo de Fratelli d'Italia, ce parti d'extrême droite qui d'inspiration, comment dire, bah, fasciste selon l'UMA. Même s'ils s'en défendent, et c'est vrai que ce logo ressemble beaucoup à celui de l'ancien FN, la fameuse flamme, pour le coup, je crois que cette flamme en Italie, là, elle renvoie directement au régime de Benito Mussolini, le dictateur fasciste. Donc, on se penchera sur l'inquiétude de l'UMA avec ces élections qui arrivent. La Croix, et comme d'autres journaux ce matin, notamment en région, il y en avait beaucoup, j'ai lu ce matin que Sud-Ouest, le magazine Sud-Ouest dans la région de Bordeaux, consacré depuis un mois ou deux, à vérifier, mais j'ai vu cette info, toutes ces unes à la question du réchauffement climatique. C'est beau ça, c'est beau, c'est vachement intéressant. Et ce matin encore d'ailleurs. Et puis là, c'est La Croix, face à l'urgence. Alors ça, c'est une question qu'on s'est posée avec la presse de dimanche, le journal du dimanche et le Parisien du dimanche. Vous savez qu'à la faveur de tous ces épisodes météo extrêmes qu'on a connus cet été, canicule, sécheresse, les incendies, cet orage de fou en Corse qui a tué au moins 5 personnes, eh bien, il y aurait une accélération de la prise de conscience quant à l'urgence climatique dans un pays comme la France. Voilà. La question est-ce que cette prise de conscience va durer, va être pérenne, va passer l'été, va durer à la rentrée? C'est aussi la question que se pose La Croix ce matin. Voilà. Et puisque je penche aussi sur, sur l'action, ou plutôt l'inaction, dit La Croix, du gouvernement français en la matière. Dossier dans La Croix. On vous parle aussi de météo en Une des Échos, alors de façon un petit peu légère. Eh bien, c'est une, comment on dit, je ne connais rien en vin, mais... un bon millésime qui s'annonce pour le vin français. Les vendanges débutent dans un climat d'exception. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de vin parmi vous. Je vous avoue que ce n'est pas mon cas, je ne vous lirai pas ce dossier. Bon, je vous donne l'info quand même. Malgré le gel, la grêle et la canicule, eh bien, la récolte précoce s'annonce de très bonne qualité pour le vignoble français. Exceptionnel même pour le champagne. Bon, ça, je vous le signale, si ça vous intéresse. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce dossier. Comment sortir la France du carbone, puisqu'une fois qu'on a posé le constat, c'est quelle solution, alors ça, c'est là où ça devient compliqué, quelle solution mettre en place dans un pays comme le nôtre pour sortir notre pays du carbone et participer à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est là où dans le chat, il y en a toujours qui disent « Oui, mais alors la Chine et les États-Unis, ils polluent beaucoup plus que nous, alors pourquoi nous ?» Je sais, vous me le direz tout à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quelqu'un qui en parle de cet argument dans ce dossier des Échos, les défis du gouvernement pour décarboner la France. Qu'est-ce que nous dit ce dossier qui est très intéressant? Alors, en fait, les solutions, elles existent, elles sont sur le papier. Il y a des groupes de réflexion très pointus qui ont bossé là-dessus, qui disent voilà, pour décarboner la France, il faut faire ça, ça, ça et ça. Donc, on sait comment faire, hein, assez efficacement, pour réduire de moitié assez rapidement les émissions de gaz à effet de serre en France. La question, c'est est-ce qu'on prend ces décisions? C'est toute la question. Et puis, le lundi, c'est souvent très riche. Putain, mais c'est quoi tous ces subs de folie? Asdar, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Mathéus 9, les habitués sont là. Merci pour le dixième mois. Babos, merci d'être avec nous. Merci pour le deuxième mois. Bonjour à toi aussi. Vous êtes cool. Donc, le lundi, toujours beaucoup d'actualités sportives, beaucoup de résultats. Après les différents championnats du week-end, alors, bon, je ne sais pas s'il y a des supporters du PSG dans le chat ce matin, mais alors, ça a été un régal pour eux, hier soir. Hein, 7-1. Ouh! Je ne sais pas s'il y a des supporters de Lille, dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des supporters de Lille qui étaient au stade, parce qu'en plus, c'était à Lille hier soir. Alors, mauvaise soirée. 7-1. Un festival. La claque, comme dit Aaron Deal dans le chat à l'instant. Un festival des Parisiens, notamment des attaquants. Cette image, elle est assez symbolique d'ailleurs de ce match. 7-1 contre Lille, qui était un peu le. J'étais au stade. Ah bah voilà. Tirop 59, manifestement supporter lillois. J'étais au stade, c'est dur. Oh là 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 là. À domicile, Galtier sans pitié pour son ancien club, parce que c'est l'ancien entraîneur de Lille. Beatle, tu as raison. Voilà. Donc, festival des Parisiens. Alors, match important, parce que c'était le premier match vraiment compliqué en 3 journées pour les Parisiens. C'était un genre de test pour voir ce que ça donnait. Bon, bah voilà. Alors, il y avait de vraies interrogations, parce qu'il y avait des tensions entre les égos assez conséquents des stars de ce club. Mbappé, Neymar... et aussi un petit peu Messi, et manifestement, c'est ce que nous raconte l'équipe, eh bien, ils ont mis leurs égos au fond de leur poche avec un gros mouchoir dessus, et ils ont fait un match de fou. On se penchera quand même, s'il n'y a pas que le PSG dans la vie, sur tous les résultats de cette 3e journée de Ligue 1, sachant que Lyon a un match en retard. Voilà, le haut du classement, le bas du classement aussi. Et puis, il n'y a pas que le foot dans la vie. On félicitera Caroline Garcia pour cette magnifique série. Il y a l'US Open qui arrive là, en tennis. Et on croise les doigts pour que Caroline Garcia fasse un super beau parcours. Je suis en train de feuilleter l'équipe avec vous. Voici Caroline Garcia, la renaissance. Parce que moi, c'est une joueuse que j'adore, que j'aime beaucoup. Voilà, et c'est vrai qu'il y a quelques temps, elle avait eu une période incroyablement belle et réussie. Et puis là, un peu la traversée du désert, elle était tombée au... Je l'ai lu dans l'équipe ce matin, au... Combien-tième 79e rang mondial récemment. En mai dernier, pire rang depuis 8 ans, puis c'est reparti là, c'est reparti, c'est la renaissance. Elle a remporté le tournoi de Cincinnati, c'est un WTA 1000. Voilà, après des années de galère et de doute, elle est magnifique cette photo. La France, regardez, on le voit là. La joie, le bonheur. La Française de 28 ans fait un retour fracassant au premier plan, à tel point qu'on se demande ce qu'elle va faire à l'US Open. Donc on se penchera un petit peu sur ce regain de forme, ça c'est chouette. Et puis, de l'autre côté, on ira se lamenter sur le bilan des athlètes français au championnat d'Europe d'athlétisme. Voilà. Aucune médaille d'or. Aucune médaille d'or pour les athlètes français. 22e rang des nations. Voilà. Hein. Alors, l'équipe fait exprès de citer des nations devant nous voilà, pour bien nous faire comprendre à quel niveau on est. Bon, bah, la Roumanie, c'est devant. L'Albanie, c'est devant, notamment. Voilà. La Serbie, c'est devant. La Suisse, c'est devant, largement. Voilà. Donc, voilà, c'est chaud. Et c'est chaud d'autant plus que bah, vous avez les Jeux Olympiques de Paris, les Jeux Olympiques en France en 2024. Et donc, c'était une espèce de répétition générale pour montrer un petit peu de quel bois on allait se chauffer. Ben, c'est pas terrible. Et on finira sur une bonne note parce que je voulais pas terminer là-dessus. Est-ce que c'est grave d'être pas bon en athlétisme, demande Picsou 31. C'est juste le jeu du sport, c'est toujours plus haut, toujours plus fort. Voilà, c'est juste la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, disait Camus. Donc, je dis pas que notre pays va à volo si on n'emmène pas des médailles d'or. C'est juste qu'on s'intéresse au sport, on a envie que nos athlètes brillent, bien sûr, et nous impressionnent par leur performance. Comme, transition magnifique, Fabio Quartararo, le champion du monde en titre de MotoGP qui est français et qui est... et qui est aligné bien sûr sur cette nouvelle saison. Il est actuel leader du championnat avec une Yamaha qui est un petit peu à la peine face au gang des Ducati. Et là, il a fait un très beau deuxième résultat hier avec notamment un dépassement de fou que je n'ai pas vu, mais l'équipe en est restée baba. Quartararo qui fait une belle opération ici et qui conforte sa première place au général. À signaler que Zarco a fait une bonne course aussi et actuellement quatrième au général Johan Zarco, l'autre pilote français. On terminera sous cette bonne nouvelle. Voilà. Voilà. Pas mal. Ouais. 0h42. 42 minutes de stream. Je vous ai fait un petit sommaire en images, en musique. Voilà. De 2 minutes, 2 minutes 30. Je vous ai fait un petit sommaire un peu plus développé en 20 minutes, je pense, 15-20 minutes. Voilà. Et maintenant, on va lire tout ça. Vous avez maintenant l'info, vous avez l'essentiel de l'actu, ce dont parlent les médias en ce moment, ce dont parlent les journaux, et maintenant on va plonger dans cette actualité, essayer de comprendre tous ces dossiers qu'on a évoqués là, on va prendre un petit peu de temps, et on va en parler ensemble bien sûr, parce que si on n'en parle pas ensemble sur Twitch, ouais, parce qu'on a affaire ici. Allez, on va commencer par le Figaro. Ah, d'abord je vais boire un petit peu de café. Graki Mayer, merci beaucoup pour ce Prime. Asdar, merci pour ce deuxième mois d'abonnement. Je vous lis un petit peu, on démarre. Oh, il y a des amateurs de MotoGP, ça me plaît. Candy Batch, Samuel, tu parles comme Julien Lepers. Ah bon? D'accord, on l'avait jamais dit ça encore. Ok, d'accord, pas de souci. Ok, pas de souci, ok. C'est de quelle heure à quelle heure en général la matinée Étienne demande de l'algorithme qui est peut-être nouveau parmi nous. Tout l'été, c'était genre 8h30, 8h45. Là, maintenant, j'ai repris la matinale de France Info, le temps de revenir de France Télévisions. C'est plutôt 9h30, 9h45. 10h ce matin, parce que j'ai un petit peu traîné. 9h30, 9h45, tous les matins, quasiment, j'essaye. Et en général, ça dure 3h. Donc là, on va jusqu'à 13h, je pense, matin au moins. Hein, 13h, voilà. Algorithme. Oh, vous êtes mignon parce que vous répondez du coup à vous-même à la question. Vous êtes des choux. Vous êtes des choux. Merci Zozélias pour le gentil message. Bon, vous êtes prêts pour la plongée dans l'actu? Je vois que certains ont mis leur tuba. C'est trop mignon. Allez, let's go. Donc, on commence par cette rentrée. J'espère que pour vous, ça n'est pas encore la rentrée. J'espère que certains profitent encore des vacances. Docteur Mogor, merci beaucoup pour ce deuxième mois d'abonnement. Vous me soutenez à Donfin. Merci beaucoup. C'est adorable. J'espère que l'émission que je lance ce vendredi à 20h à la maison va vous plaire. Donc, la rentrée, en tout cas, politique, elle est là. Pas pour les députés, hein, pas pour les parlementaires, parce que je crois que la session parlementaire ne va reprendre qu'en octobre, mais les ministres, ils sont sur le pont. Premier conseil des ministres de rentrée, c'est mercredi, c'est dans 2 jours. Macron qui prépare une rentrée sous pression, nous dit le Figaro, tu m'étonnes, prix de l'énergie, urgence climatique, on n'a pas fini d'en parler, et heureusement, budget, les dossiers chauds s'accumulent pour l'exécutif qui tiendra son conseil des ministres de reprise mercredi, ça c'est l'actu, son majorité absolue, hein, toujours, hein, il n'y a pas eu de nouvelles élections cet été, il doit trouver des compromis, je peux vous dire que ça va être Coton. Ça va bien se passer chez une équipe qui n'a pas encore d'alternance. Ah là là, c'est chiant de l'alternance. Je suppose que tu as du mal à trouver l'entreprise, peut-être. C'est compliqué, ça. Ils ont ce petit résumé, là. Et puis l'édito d'Yves Tréhard à ce propos. Clap de fin pour les vacances des ministres. Tous les membres du gouvernement sont attendus ce mercredi à l'Élysée pour un conseil des ministres de rentrée sous la houlette d'Emmanuel Macron, qui préside en tant que président, que chef de l'État, ce conseil des ministres, bien sûr. Après des vacances studieuses, perturbées par des incendies sans précédent et des orages meurtriers, l'exécutif se prépare à une rentrée périlleuse. Plusieurs dossiers chauds attendent le gouvernement, lesquels qui doit gérer les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, toujours, notamment sur le prix de l'énergie. À l'automne, le vote du budget, très important ça. Il y a Chahine qui cherche une alternance en graphisme communication. Oh, vous êtes adorable parce que vous êtes plusieurs à demander. Quelle région, Chahine, dis-nous, une alternance en graphisme communication. S'il y a des gens qui ont des solutions à proposer, quelle région, dis-nous, ta région, juge Chahine, à moins que tu sois super mobile. Donc, à l'automne, le vote du budget sera un test majeur dans un contexte politique inédit. Dans la région d'Angers, 49, nous dit Chahine, son pseudo s'affiche ici si vous voulez lui écrire. Alors déjà, le vote du budget c'est capital, hein, c'est quel prélèvement on prend, hein, quel taux d'imposition de taxes on prend et comment on redistribue tout cet argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On est vraiment sur le cœur de l'action publique. Le budget, la loi de finances, c'est essentiel. C'est déjà compliqué à faire passer quand on a une majorité, quand on est une majorité relative seulement comme le président Macron actuellement, c'est encore plus compliqué. Donc vraiment, le vote du budget, ça va être compliqué. Et c'est un vrai test politique. Le Figaro l'écrit ici, privé de majorité absolue à l'Assemblée, les macronistes vont devoir nouer des compromis avec des oppositions qui sont remontées à bloc. Ben oui, elles ont bien compris le pouvoir qu'elles avaient dans cette majorité, dans cette Assemblée avec une majorité relative pour LREM. Les débats s'annoncent également houleux sur la transition écologique et sur l'immigration. Ça sent le 49-3, dit 47 Alexia, bien vu. Yves Tréhard en parle dans son édito. L'heure de vérité, édito d'Yves Tréhard. De quoi s'agit-il ? Dans le tourbillon de l'actualité, dit Yves Tréhard, il est une certitude qui revient tous les ans à la même époque, la rentrée est toujours annoncée comme chaude. C'est vrai que ça, c'est vraiment un marronnier, comme on dit dans notre jargon de journaliste. Hein, c'est un marronnier, c'est une actu qui revient un peu toujours à la même période. Vous dire en fin août ou en septembre que la rentrée va être chaude, politique et sociale, c'est un marronnier. Mais Yves Tréhard écrit cette année, elle sera peut-être particulièrement chaude. Le retour de l'inflation, la flambée des prix de l'énergie, les conséquences de la guerre en Ukraine. Et à ce climat, un contexte inédit qui s'ajoute à un paysage politique éclaté, comme jamais, le président de la République et son gouvernement ne disposent donc pas d'une majorité absolue et donc d'une totale liberté d'action. Quant à l'opposition, elle est plurielle, elle est surtout répartie entre les deux extrêmes à gauche et à droite, écrit Le Figaro. Dans ces conditions, Emmanuel Macron va-t-il pouvoir conduire les réformes ? C'est la question qu'on se pose en fait depuis les législatives qu'il entend entreprendre. Rien n'est moins sûr, dit Le Figaro, tellement l'adversité est forte. Conclusion de l'édito. Et on en vient au 49-3 qui était évoqué par quelqu'un dans le chat. Ça n'est pas le nom d'une bière. Elle serait très très forte. L'heure de vérité sonnera à l'automne au moment du débat sur le budget 2023. Je vous avais dit que ce serait coton. Un moment périlleux pour le camp présidentiel, à moins qu'il décide de passer par l'article 49-3, comme la Constitution l'y autorise. Hein. C'est l'article qui permet de faire passer un texte à l'Assemblée sans vote, mais en engageant la responsabilité du gouvernement. Celui-ci permet d'adopter un texte sans vote, pardon, Le Figaro le dit un peu plus loin. Si tel était le cas, ce serait un terrible aveu de faiblesse, estime Yves Tréhard. Alors après, le 49-3, c'est quand même un procédé que de nombreux gouvernements ont utilisé sous la Ve République. Hein. Et comme le dit Chauve-Soucri, qui suit l'actu, je le vois dans le chat, Borne, Elisabeth Borne, ne s'est pas cachée de vouloir l'utiliser. Elle ne s'est pas cachée en tout cas, elle a dit que si c'était nécessaire, elle l'utiliserait, effectivement. C'est un peu un classique, hein. Sous la cinquième, c'est pas, ce serait pas une très grande nouveauté. Hein. C'est ainsi que le constituant, le général de Gaulle et ceux qui l'entouraient, ont voulu la Ve République, c'est-à-dire avec des outils, des armes, pour l'exécutif, pour pouvoir finalement avoir assez facilement le dernier mot par rapport à un parlement qui s'opposerait à lui pour faire passer ses réformes. Un exécutif fort grâce à des outils comme celui-ci. Bon, ça, après, est-ce qu'il faut changer la Ve République ? C'est un autre débat qu'on a souvent ici, d'ailleurs. Sénèque pose la question. Compliqué, le 49-3 sans majorité ? Non, point d'interrogation. Pas tant que ça. Le 49-3, c'est une arme à double tranchant. 49-3, je vous le disais, permet de faire passer un texte, un projet de loi, sans vote de l'Assemblée. Démocratiquement, ça pose question, mais c'est comme ça. Donc le texte passe comme ça. Alors, c'est à double tranchant parce que, du coup, en utilisant le 49-3, le gouvernement met en jeu sa responsabilité et permet à l'opposition, à l'Assemblée, de voter la chute du gouvernement en votant la censure. Mais il faut, sauf erreur de ma part, que cette motion de censure, cette chute du gouvernement, soit votée à la majorité absolue des députés. Ce qui est extrêmement dur à obtenir, c'est arrivé une fois, je crois, dans l'histoire de la Ve. C'était sous Pompidou. Et puis De Gaulle derrière, excusez l'expression, mais c'est pas trop fait chier, puisque le gouvernement est tombé, oh y a une catastrophe, et le lendemain, De Gaulle a renommé Pompidou Premier ministre. Voilà. Donc, c'est arrivé qu'une seule fois, et pourquoi je pense que ce n'est pas beaucoup plus dangereux ici pour le gouvernement, c'est parce que on a une opposition qui est effectivement en position de force face à une majorité qui n'est que relative, mais on a une opposition qui est plurielle, comme disait Le Figaro, qui est diverse. Cette motion de censure contre le gouvernement, il faudrait qu'elle soit votée par des gens aussi différents que la NUP, l'Alliance de la Gauche à l'Assemblée, LR, la droite traditionnelle, et l'extrême droite, le Rassemblement National, et ses 89 députés. Il faut que ces gens se mettent d'accord pour faire chuter le gouvernement. Et il faut une majorité absolue. Que n'ont pas ces partis. Que n'ont pas ces partis. Donc, voilà, compliqué. Voilà pour le petit éclairage sur la rentrée politique. Et puis, alors, un autre sujet que je trouve passionnant ce matin, c'est aussi de la politique, mais ça, c'est pas chez nous. C'est à Finlande, si je dis pas de bêtises. Je lis un petit peu vos commentaires sur la politique française, je vous ai pas trop lu là. Tiens, je vous lis un petit peu sur le 49-3 là, avant de passer à la Finlande. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Si on peut voir un point commun entre ces partis, c'est la chute du gouvernement Loupipou. Oui, mais qu'est-ce qui se passerait ? Imaginons le gouvernement chute. Bon, qu'est-ce que peut faire Macron ? Par exemple, convoquer de nouvelles élections législatives. Qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce que ces partis d'opposition qui auraient fait tomber le gouvernement auraient un meilleur résultat qu'ils n'ont eu aux dernières législatives ? Ou est-ce que ce serait l'inverse ? Est-ce qu'ils ne prendraient pas le risque de voir les Français, une partie des Français qui diraient oh, c'est quoi ce bordel ? Voilà, on est déjà appelé à revoter aux législatives. Qu'est-ce que c'est que cette motion de censure qui n'a pas de sens ? Voter à la fois par l'extrême droite et la gauche, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Allez, on va donner une majorité à LREM et ses alliés, comme ça, au moins, ils vont pouvoir faire leur truc en attendant la prochaine présidentielle. C'est à double tranchant, c'est un peu dangereux politiquement, quoi. Voilà. Aucun parti... Tiens, Décadrag me le dit, mais mieux que moi. Aucun parti à l'Assemblée nationale n'a peut-être intérêt politiquement à une dissolution aujourd'hui. Zélias a raison, me dit très poliment, je me permets, on parle de groupe parlementaire et non de parti à l'Assemblée, tu as raison. Merci. Faire un gouvernement de coalition comme en Allemagne, propose Pronoia, oui, mais on n'a pas la culture en France, on n'a pas la culture de ça. Un jour peut-être. On n'a pas la culture de ça. Oh, j'avais quelqu'un qui vient d'être banni par un modo. Salut les modos, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouh là là, salut. Ça bannit pas beaucoup ici, hein, donc c'est que ça devait être pas joli, joli. Captain McBernick, merci à toi. Gandalf Listari, merci à toi. Et Soleil Alan, merci aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit des bêtises. Hein. Il y a eu des bêtises, je les ai loupées. Hein. Ah, du coup, j'ai pas vu le message parce que ça a été supprimé. C'était chaud, chaud. C'était chaud, chaud. Ça a été rapide, là. Tu perds rien de pas lire le message. Okay. Racisme, plus menace de mort, plus anti-LGBT. Ok, je crois. Ok. Ah, j'aurais voulu le ban moi-même. J'ai raté, j'ai pas vu. Bon, on aura l'occasion de reparler de ça. Ah oui, ça, quelqu'un qui s'était perdu. Ça arrive, hein, les gens qui se perdent. Ça arrive. Ici, je vous rappelle, toutes les idées légales sont autorisées, à condition que, un, qu'elles soient légales, et deux, qu'elles soient exprimées correctement et sans agressivité par rapport aux autres membres du du chat, bien sûr. Donc manifestement, ce n'était pas le cas du tout. Allez, alors ça, cette histoire, elle me passionne. Finlande. Lendemain de fête difficile pour Sanna Marin, cette jeune première ministre social-démocrate de Finlande. Toute la polémique est venue d'une vidéo montrant la première ministre danser avec des amis lors d'une soirée. Oh, scandale ! Scandale ! Lisons cette histoire, essayons de comprendre et je vous demande ce que vous en pensez. C'est une vidéo de 2 minutes qui a fuité avant le week-end sur les réseaux sociaux, aux images non datées et d'origine inconnue. On peut y voir une quinzaine d'amis faisant la fête dans un appartement plus chic. Parmi eux, quelques célébrités finlandaises, dont une chanteuse, une styliste ou encore un youtubeur. Ils boivent, chantent à tue-tête, prennent des poses suggestives, c'est chaud, pour se filmer avec leurs tatouages et leurs cheveux teints. C'est une teuf, quoi. Personne ne fume, aucune trace de substance illégale sur les images. Bon, il y a air, comme dirait mon ami Étoile. Une soirée somme toute banale pour de jeunes adultes qui profitaient du court été finlandais, mais qui devient exceptionnel quand l'une des invitées s'appelle Sanna Marin, 36 ans. Première ministre finlandaise depuis 2019. Sans se démonter, la leader du Parti social-démocrate a revendiqué le droit à occuper son temps libre comme elle le souhaite. Elle a déclaré « j'ai dansé, j'ai chanté, hein, j'ai pris mes amis dans mes bras, j'ai bu de l'alcool », a-t-elle détaillé. La fête qui aurait eu lieu plusieurs semaines auparavant aurait commencé dans un appartement, puis dans un autre appartement, avant de se prolonger dans un bar, puis dans un deuxième bar. Pour la trentenaire plus jeune chef de gouvernement au monde, on a beaucoup parlé de ça à l'époque. Lorsqu'elle a accédé à ce poste, la polémique n'a tout simplement pas lieu d'être. J'ai une vie de famille, j'ai une carrière professionnelle, j'ai du temps libre que je passe avec mes amis, tout comme de nombreuses personnes de mon pays. La diffusion virale de cette vidéo iconoclaste a pourtant irrité une partie de l'opposition et de l'opinion finlandaise, notamment parce que Sanna Marin aurait été en service et non en congé lorsque ces images ont été tournées. Le leader d'extrême droite, Riikka Purra, interloqué par l'attitude de l'élu de cette fête, a demandé que ces dernières se soumettent à un test antidrogue. Je continue l'histoire et puis je demanderai ce que vous en pensez, je lirai vos commentaires. C'est pas la première fois que la vie quotidienne de la citoyenne Sanna Marin enflamme ainsi les médias de son pays. Elle a déjà subi le feu des critiques pour des soirées à sa résidence officielle ou pour avoir dansé jusqu'à l'aube. Oh, catastrophe ! Dans une boîte de nuit d'Helsinki alors qu'elle était cas contact pour le Covid-19. Ah. Elle aussi a été aperçue à plusieurs reprises dans des festivals cet été de musique en Finlande. En 2020, elle avait même été accusée de jouer les mannequins pour un magazine en posant sur la couverture avec un blazer noir sans rien dessous. Une photo certes osée pour la dirigeante d'un pays, mais qui lui a valu le soutien de centaines de Finlandaises sur les réseaux sociaux. Ce rapport plutôt détaché au pouvoir ne l'a pas empêché, écrit le Figaro, de gérer avec brio la crise du Covid ou l'adhésion de la Finlande à l'OTAN en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour les spécialistes du genre et de la politique, Johanna Kantola, qui est professeure à l'université de Tampere, le problème posé par Sanna Marin n'est pas celui de la compétence, mais la façon dont elle bouscule les normes. Durant cette période gouvernementale, l'image traditionnelle de l'institution a beaucoup changé, dit cette spécialiste. Sanna Marin soulève donc la question de savoir quel genre de vie le Premier ministre, ici la Première ministre, est autorisée à mener le débat. Il est autour de ça. Conclusion de l'article, Sanna Marin a consenti à se soumettre à un test de dépistage pour lever toute ambiguïté. Les résultats seront connus cette semaine. Alors, moi j'ai un sentiment là-dessus, je ne l'exprime pas, je vous lis et on en parle. De Kiwi, TTTKiwi, merci pour le 10e mois d'abonnement. Pixelise, merci pour le 6e mois d'abonnement. Renifleur de plaie, de... pas de plaie, de paix, PAX. C'est important. Merci pour le 10e mois d'abonnement. Vive le 49.3 pour dépasser les bornes. Elle est bonne. Louga Rouge, merci pour le 8e mois d'abonnement. Docteur Mogor, je ne sais plus si vous avez remercié. Raki Mayer, Asdar, oui, je crois que oui. Je crois que oui. Le Gregal, merci pour le Prime à l'instant. Alors, vous en pensez quoi ? Je ne savais pas que les talibans étaient arrivés jusqu'à la Finlande, me dit Yann. Yann qui nous regarde depuis un avion, si je ne dis pas de bêtises. C'est toi Yann qui est dans un avion, je ne sais plus. Voilà, Jean, elle n'a pas le droit de faire des fêtes, demande de Ximeng. Faut arrêter un moment, c'est des humains avant tout, Julien. Ah, Massalia du 51, un petit peu caustique. Mais ce serait, ne serait-ce pas la femme de Boris Johnson ? Non, ce n'est pas la femme de Boris Johnson. Et qui gueule encore ? Des vieux blancs de droite ? Du style égyptologiste. De quoi je me mêle, franchement, on a une époque bien triste, 66 Abigail. Ma main a coupé qu'on aurait le même scandale en France si ça devait arriver, dit Choco. T'as peut-être pas tort. Après, imaginons Elisabeth Borne. faire la teuf jusqu'au petit matin en picolant avec ses copines et en dansant suggestivement, comme le dit l'article du Figaro. Je ne sais pas si c'est pour demain, ça, quand même. Julioc propose Jolioc un test anti-connerie pour certains. Bon, globalement, ouais, globalement, vous êtes tous un peu sur cette... Voilà. Franchement, cette polémique, puisque le mot misogynie est très présent dans vos commentaires, Cat Garlic, franchement, cette polémique, c'est un classique cas de misogynie ordinaire. Certains évoquent les fêtes de certains responsables politiques pendant la crise sanitaire en France. Ouh là là, ça, oui, ça tacle là, ça tacle là, ça tacle. Ça y va, ça y va, ça y va. Drac 56, polémique inutile et ridicule, c'est assez symptomatique de notre époque malheureusement. Les réseaux sociaux, dit Drac, génèrent des polémiques qui n'existaient pas avant. Je pense que les politiques ont toujours fait la fête, mais avant les vidéos ne circulaient pas. Alors, les réseaux sociaux, ils ont un petit peu le dos large, parce qu'on voit bien qu'ici que la polémique... Elle vient surtout des responsables politiques d'opposition. Peut-être que les réseaux sociaux donnent une caisse de résonance supplémentaire à ces prises de position qui sont politiques. Peut-être que les réseaux sociaux font apparaître des comportements qu'on ne voyait pas avant ou des réactions qu'on n'entendait pas avant. Mais là, clairement, c'est très, très politique. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de trouver la... Les images reprochées à Sanna Marin. Je ne sais pas si je prononce très bien d'ailleurs, parce que je parle pas finlandais. Mais... Ouais. Je cherche une bonne source. USA Today. Télégraphe. Le Parisien. Faites pas gaffe. De trouver les images en parisien, je vous montre rapidement. On va voir si ces images sont si. Ah, on parlait. Oh putain, Samuel. Il y a Waffer qui me dit on parle finnois, Samuel, pas finlandais. Oh la honte. Je suis nul. Merci pour la correction. J'ai les images. C'est le parisien qui nous les montre. Finnois, pardon. Oh la honte, je suis nul. Heureusement que vous êtes cool. Hein. Allons, voyons les images. Bon, je les ai mis en très gros là. Peut-être un petit peu trop gros. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Hop, les images sont de retour. Hein. Oui, c'est un peu la même chose. Bon, bah, c'est voilà. Bon, ok, on a vu les images, on a vu les réactions, et maintenant vous, alors vous en pensez quoi? Oui, bah oui. Hein. Oui, voilà, une fille de 30 ans qui fait la fête, quoi. Voilà, on est bien d'accord. Bon, est-ce que c'est la peine de faire un sondage sur la question? Bon, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. J'ai essayé de trouver des commentaires disant non, c'est un scandale, c'est honteux. Qu'une femme politique de ce niveau de responsabilité. J'en ai pas trouvé. Donc il y a R, on est bien d'accord, à suivre les résultats de ce test de dépistage accepté par Sanna Marin. Résultat dans quelques jours. Polémique sur du vent, dit Astaroth. Bon, vous l'avez compris, c'est un peu mon sentiment aussi, mais je voulais avoir votre avis. Ok, c'est cool. Merci au Figaro de traiter cette actualité, puisque pour le coup, le Figaro est le seul journal qu'on parle, mais qu'on parle de façon, j'ai trouvé, assez nuancée. Merci Le Fig. Donc Le Figaro, on l'a vu, nous parle d'une rentrée politique compliquée pour l'exécutif et Libération se penche sur la rentrée sociale. Je remercie les subs. Baby Pilot, merci beaucoup pour ce 12e mois d'abonnement. J'espère pouvoir te voir le 6 septembre. J'accompagne un pote au tournage de Questions pour un champion. Mais bien sûr que tu viens me voir. Même si l'équipe te dit que t'as pas le droit de descendre sur le plateau, tu dis si. Tu dis je suis Baby Pilot, 12e mois d'abonnement. J'ai un badge... Thermos sur Twitch, sur sa chaîne. Donc je descends. Donc tu descends et tu viens prendre un café avec nous. Donc on se voit le 6 septembre. Ok. Donc vous avez compris, pour venir me rencontrer, il faut se qualifier pour Question pour un champion ou avoir un pote qui se qualifie pour Question pour un champion. Bob Polo 19, merci pour le Prime. Fodfouille, merci pour le 10e mois d'abonnement. 10 mois de bonheur, tu me gâtes. Toi, Toile, merci pour le 12e mois d'abonnement. Oh, oh, un an. Ah, vous êtes champion. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Rainbow 86, à l'instant, merci pour le 4e mois d'abonnement. Et 20 Dirante, merci pour le Prime. Hop, il y a Purple qui vient jouer le 7. Mais vous êtes super nombreux à venir à Question pour un champion. La fête. C'est fou, ça. Vous êtes fort en culture générale, vous. Il faut un mot de passe, Samuel, que tu donnes à l'équipe. Si personne ne le donne, il peut venir te voir. Ah, il faut que je donne un mot de passe. Dites badge thermos. Ça devrait passer. Badge thermos. Donc, Libération nous parle moins de la rentrée politique, plutôt de la rentrée sociale. En même temps, c'est un peu la même chose. Rentrée sociale, l'autre coup de chaud, on a eu chaud cet été, on va avoir chaud socialement, là, à l'automne, en septembre, c'est ce que nous dit Libération, en s'appuyant sur un sondage publié par Libé, merci beaucoup Tharx pour le Prime à l'instant. 68% des Français, selon ce sondage commandé par Libération, à l'Institut Via Voice, je crois, anticipent des mouvements sociaux d'ampleur en septembre. Inflation, le coût de la vie, assurance chômage, nouvelle réforme de l'assurance chômage à venir, retraite, nouvelle réforme des retraites à venir, les sujets brûlants ne manquent pas, nous dit Libé. Édito et article, j'ai envie de commencer par l'article et on lira l'édito après là-dessus. Merci Koenigs pour le Prime, merci pour vos soutiens, vous êtes cool, hein. Merci. Rentrée sociale, partis et syndicats, machine à en découdre, l'ANUP, donc l'alliance des partis de gauche, à l'Assemblée, les principales centrales syndicales s'organisent en ce moment pour frapper en cette rentrée qui s'annonce explosive sur le plan social. Le gouvernement a prévu un traitement de choc pour l'emploi à la rentrée. Donc ça, c'est la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Objectif affiché, mettre tout le monde au travail pour atteindre le plein emploi d'ici à 2027. Au menu de l'Assemblée, donc en octobre, le premier projet de loi sera consacré à la réforme du travail. Nouvelle réforme de l'assurance chômage, version durcie en fait de l'assurance chômage, avec une indemnisation s'ajustant à la conjoncture économique. En gros, quand la croissance est là, eh ben, on serre la vis de l'assurance chômage, et quand c'est un peu dur, on desserre. Parmi les autres serrages de vis, figure la réforme du RSA, à l'automne toujours, il y a une dizaine de territoires qui vont expérimenter la conditionnalité de l'ARS, l'allocation de solidarité active. Ah, merci. Vous êtes fort. L'info augmentée. Donc, à l'automne, une dizaine de territoires vont expérimenter la conditionnalité de l'allocation à 15 ou 20 heures d'activité par semaine, sinon pas de RSA, avant une généralisation prévue pour 2024. Encore une réforme. Concernant le recul de l'âge à la retraite, dont on parle depuis un moment, là, il n'y a pas de date. Là, le gouvernement est manifestement pressé de prendre son temps, sentant que ce n'est pas super populaire. La discussion devrait débuter à la rentrée, a indiqué le président Macron lors de la fête du 14 juillet, avant une entrée en vigueur prévue pour l'été 2023. On n'en est pas là, en la matière, il est un petit peu urgent d'attendre. Donc, beaucoup de dossiers un peu compliqués, tendus, pas très populaires. Est-ce que ça va donner lieu à une rentrée sociale animée là, à l'automne? Édito de Lorraine Provost. Crispation, c'est le titre de l'édito. Ok, la pression de la rentrée, c'est un grand classique. Hein, je vous parlais de marronnier de la rentrée. Mais cette rentrée-ci, c'est de la nitroglycérine, assure Libération. 68% des Français sont d'ailleurs d'accord avec nous, dit-on à Libé, ils anticipent une rentrée agitée sous le signe de mouvements sociaux d'ampleur, révèle le sondage réalisé par Via Voice, donc c'était bien pour Via Voice, pour Libé. C'est évidemment le pouvoir d'achat qui inquiète le plus, et puis parler aux Français de la réforme de l'assurance chômage, du RSA, du mutisme sur les salaires, des incertitudes concernant l'âge de la retraite, vous verrez, dit Libé. Pour toutes ces raisons, forces politiques de gauche et syndicats sont prêts à embrayer. Eh ouais. Les syndicats tiennent leur ticket pour revenir, j'ai envie de dire pour peut-être revenir sur le devant de la scène, puisque les syndicats en France, ces derniers mois, sont très peu présents. Quant à la NUP, Raya Gaillardi, par sa présence à l'Assemblée, elle entend donner de la voix, elle aussi. Je ne vous lis pas tout le dossier de Libération, mais Libération nous raconte comment, du côté de la NUP, notamment de LFI et des syndicats, on se tire un petit peu la bourre quant au rassemblement, quant aux manifestations à la rentrée, pour savoir qui va un petit peu prendre le meilleur, l'ascendant, le mieux surfer sur cette vague de mécontentement social. Voilà, le dossier de Libé autour de cette question. Je vous lis un petit peu dans l'enchaîne. Merci à Stridoudou pour le 10e mois d'abonnement à l'instant. Exutoire, moi je suis remonté comme une cocotte minute, prêt à exploser. En Angleterre, la rentrée sociale, elle est pas mal aussi. Caradoc, t'as carrément raison. Et j'attends le bon article cette semaine pour vous en lire, pour vous en parler de ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne. Je vous lis. Ah, TPXP un petit peu inquiet. Bon, faudra pas prendre le train en septembre. Ah. Oh, j'ai mon soleil qui est en train de taper sur les ordi. Il fait beau ce matin. Slumbert s'interroge, est-ce que c'est pas tous les 5 ans qu'on recule d'un an l'âge de départ? Bah écoute, avant c'était quoi, 62 ans, non? L'âge légal de départ à la retraite? Non, 60 ans. Et après on est passé à 62. Et là on parle de 64, 65. Bah oui. On aura l'occasion de parler de tous ces sujets. Hein. La réforme de l'assurance chômage, la réforme du RSA, la réforme des retraites, bien sûr. Il se passe quoi au Royaume-Uni en ce moment, demande XX? Bah une grosse tension sociale dans plein de secteurs. Et je vous cherche depuis quelques jours le bon article pour vous en parler. Je pense que ce sera cette semaine. Drop My Skills, merci pour ce prime à l'instant. Voilà, pour la rentrée sociale qui s'annonce tendue pour Libération. J'ai un autre truc dans Libé, ouais. Vous m'en parlez certains depuis tout à l'heure. Notamment ceux qui n'étaient pas avec moi hier matin quand j'ai longuement parlé de cette polémique sur cette séance de karting dans la prison de Fresnes. Donc on en a parlé assez longuement hier. Je me suis dit que tout le monde n'était peut-être pas là hier, on va y revenir avec un article assez complet de Libération là-dessus. Koh-Lantès, hein, donc une espèce de Koh-Lanta en prison, l'opération menée à Fresnes, on en a parlé hier, on a vu même toutes les images tranquillement pour comprendre. Et on a quelqu'un ici qui est le président de l'Observatoire national, international des prisons, Mathieu Quinquis, qui dit que Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, a cédé dans sa réaction exprimée sur Twitter à l'agenda de l'extrême droite. Une prison, du karting, une polémique. Le 27 juillet, donc c'est pour ceux qui n'ont pas l'info, un événement baptisé Koh-Lantès s'est tenu au sein de la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. Vous notez que c'est 27 juillet que la polémique elle arrive mi-août, tout simplement parce que les images elles ont été trouvées sur Internet par des gens qui ont commencé à faire monter la polémique. Détenus, surveillants, mais aussi habitants de la commune se sont affrontés lors d'épreuves variées, il n'y avait pas que du karting, du simple questionnaire, il y avait une espèce de questionnaire en mode question pour un champion, jusqu'au karting. Ce tournoi organisé par Djibril Dramé, qui est quelqu'un qui est déjà à l'initiative d'un Koh-Lanta des cités, opposant jeunes et policiers en juillet, a été filmé et diffusé sur Internet, notamment par Combini ce week-end. C'est un petit peu là que la polémique a commencé à monter. De quoi, dans une fin août un petit peu creuse, alimenter une énième querelle sur le rôle de la prison, lieu punitif, mortifiant, pour une partie de l'opinion publique, certains s'exprimaient dans ce sens hier dans le chat, espace de réinsertion et de la seconde chance pour d'autres. Après une polémique encore une fois lancée par l'extrême droite, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est lui-même engouffré dans la controverse, écrit Libération, considérant sur Twitter que, je cite, « la lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting ». Le garde des Sceaux a même immédiatement ordonné une enquête auprès de Libération. Le président de l'Observatoire international des prisons, l'OIP, Mathieu Quinquis, regrette une controverse stérile. Vous êtes plusieurs à me dire, comme de Play X3 dans le chat, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Je préfère que les détenus s'amusent plutôt qu'ils se radicalisent. Donc c'est aussi l'avis de ce président de l'OIP. Il regrette une controverse stérile qui masque les réels problèmes de conditions de détention des prisonniers à Fresnes comme ailleurs. On pourrait attendre, dit ce monsieur, autre chose qu'un garde des Sceaux que d'alimenter ce genre de faux débat animé par l'extrême droite. Il cède à leur agenda politique. Ce qu'on regrette encore plus, c'est qu'il contribue à alimenter le mythe d'une prison 4 étoiles qui n'existe pas. On verra un dessin de Coco, la dessinatrice, dans un instant là-dessus. Donc, le directeur de l'OIP qui dit encore, dans cette prison, symbole d'une politique pénitentiaire défaillante depuis de nombreuses années, les conditions de vie sont totalement indignes et se traduisent sur tous les aspects de la vie quotidienne. Rappelons d'abord que l'établissement compte 1330 places, mais qu'il accueillait au début de l'été environ 1900 personnes, soit un taux d'occupation de 144%. Le contexte sanitaire est également extrêmement préoccupant avec des rongeurs, des rats, des cafards qui ont envahi les lieux, des difficultés liées à l'aération des cellules et à l'humidité. L'établissement souffre par ailleurs des épisodes climatiques aussi bien chauds que froids. Ce sont des milliers de personnes quotidiennement exposées à ce que plusieurs juridictions françaises et européennes ont qualifié de traitement inhumain et dégradant. Question de libération, mais est-ce que le karting ou le tir à la corde au-dessus d'une piscine étaient les meilleures activités à pratiquer, puisque c'est des images qui ont choqué certains, y compris dans ce chat, ainsi certains s'exprimaient hier. Réponse du président de l'OIP, ces activités dont on parle hein, ont duré une après-midi, hein, une après-midi de respiration pour une dizaine de détenus qui étaient condamnés à des peines légères. Comme le prévoit le droit français, ils sont habituellement enfermés dans leur cellule 22 heures sur 24. Lorsqu'on sort de sa cellule, c'est pour rejoindre une cour régulièrement jonchée de déchets, dans laquelle il y a peu d'équipement pour se reposer, peu d'abris pour éviter d'être en plein cagnard ou de subir la pluie, pas forcément le point d'eau accessible. Finalement, le temps hors de la cellule reste aussi, lui, complètement désagréable, parfaitement indigne. Dans les maisons d'arrêt, la règle est celle de l'enfermement. De nombreux organismes préconisent 8 heures par jour hors cellule afin qu'ils bénéficient d'activités qui valorisent leur comportement, leurs projets, leur donnent des pistes pour construire une vie de qualité lorsqu'ils sortiront de prison. Cela peut être une formation de la cuisine, une formation scolaire basique, des soins, un accompagnement psychologique, un temps de parloir, bref, une prise en charge sociale, sanitaire et économique nécessaire pour favoriser la réinsertion. Question de libération. Certaines voix s'élèvent pour demander le remplacement du directeur de Fresnes, hein, qui avait validé l'opération. Jugez-vous cette requête disproportionnée ? Réponse de l'interviewé, c'est totalement hors sujet. Le directeur fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Je crois qu'en réalité, si on doit remplacer quelque chose dans cet établissement, ce sont tous les systèmes défaillants qui sont listés, condamnés depuis de nombreuses années. Il faut reprendre un peu de raison et de mesure dans la manière dont on traite la situation pénitentiaire aujourd'hui. Pour finir, je vous montre ce dessin de Coco, dessinatrice que j'adore, la dessinatrice de Libération, et aussi de Charlie, hein, qui a trouvé, je crois, la bonne idée pour résumer cette histoire. À la prison de Fresnes, on s'amuse, voilà, après le karting, partie de Tetris en cellule, allusion bien sûr à la surpopulation carcérale à Fresnes et ailleurs. Je vous lis un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant qu'on en a déjà parlé longuement hier. C'est parti. Ah, je remonte dans le chat. Mathieu Velasquez, on ne va pas parler aujourd'hui du planning familial, mais parce que l'article que j'ai lu, je ne l'ai pas trouvé assez complet, mais je vous trouverai un article cette semaine là-dessus, promis. Voilà. Randy Shea, je pense que c'était pas très intelligent de faire des images de cet événement. C'est un des éléments de réflexion là-dessus. Mais comme tout le monde, ils ont droit à des moments de détente. Une après-midi dans un été bien chaud, dans des maisons d'arrêt qui ne respectent pas les normes, je pense qu'on s'en remettra tous, dit Bulle aux Bulles, sachant que c'est quelques détenus. Hein, quelques détenus. Hein. Ah, voilà. Alors, parfois, on a. Voilà, c'est une idée qui s'est beaucoup exprimée dans le chat hier, c'était l'idée évoquée par C de Poupaille. C'est une prison ou un centre de loisirs ? Et à l'inverse, Dusty égyptologiste, juste au-dessus, j'aime bien la logique de certains dans le chat, traiter les prisonniers comme des sous-hommes, c'est vraiment le meilleur moyen de les réintégrer à la société. TTO, juste au-dessus, les gens n'ont même pas conscience des conditions des détenus. Déjà qu'avec la canicule, les conditions des Français sont difficiles. Imaginez seulement ceux qui sont enfermés dans des conditions de prison surpeuplées. Un seul... Alors, c'est drôle, parce que... Enfin, c'est drôle. En fait, le débat qui est ici dans le chat, c'est le débat évoqué dans Libération au début du papier. De quoi alimenter une énième querelle sur le rôle de la prison, lieu punitif et mortifiant pour une partie de l'opinion publique, hein, on retrouve cette idée dans le chat, espace de réinsertion et de la seconde chance pour d'autres. Voilà. Et c'est en fait ces deux visions, ces deux regards sur la prison, on le retrouve quasiment mot pour mot ici dans le chat. On a fait un sondage hier là-dessus. Qui montrait qu'en fait vous n'êtes pas à 50-50 là-dessus. Hier, le sondage qu'on a fait là-dessus, là, je vous ai posé la question, êtes-vous choqué par cette histoire de Fresnes? Et vous étiez plus de 70% à ne pas être choqué par ce qui vient de se passer à Fresnes, et vous étiez pour le coup une petite minorité autour de 14% je crois à l'avoir été. Donc parfois il y a ce qu'on voit dans le chat, et puis après quand je pose la question aux plusieurs milliers que vous êtes, on n'a pas tout à fait le même résultat. Je vous donne juste le résultat du sondage d'hier. Voilà. En tout cas, ça vous fait beaucoup réagir, je vois. Idriss, par exemple, nous dit « La prison est temporaire. On met les gens à l'écart de la société pour les punir, dans le but de les réintégrer dans la société ensuite. Donc, il faut préparer leur réinsertion. » MetalArt 13 nous invite à lire « Surveiller et punir » de Michel Foucault, par exemple. Moi, je dis la palme du commentaire à Steph 1906. Je pense que certains devraient méditer cette phrase. Mon expérience de Mario Kart me fait dire qu'il vaut mieux éviter les raccourcis. Quand on ne maîtrise pas les dérapages, il ne faut pas généraliser un après-midi d'amusement. Je dis que c'est beau. Je dis que c'est très beau. Merci Nicodemus ASFH pour le 4e mois d'abonnement. Merci Drop My Skills. Ah, mais je t'ai déjà remercié tout à l'heure. Je me dis, encore, t'as encore sub ? Non, je t'avais déjà remercié tout à l'heure. Voilà pour Libération. Pas mal, hein ? Pas mal la citation. J'avoue, c'est validé. J'avoue. Masterclass. Ok. Yes. J'ai bien aimé. Bon, on a eu le Figaro, on a eu Libération. On enchaîne avec Le Parisien. Je ne vous lirai pas le dossier. C'est un peu un marronnier. Je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant, mais j'ai trouvé autre chose de plus intéressant dans Le Parisien pour moi. Je ne vous lirai pas ce dossier, mais je vous le signale. Il y a peut-être des parents. Ce matin qui sont avec nous et qui flippent un peu au vu du prix de la rentrée scolaire, les fournitures, tout ça. Sachez que Le Parisien vous propose 10 bons plans pour une rentrée à prix cassé. L'inflation fait exploser le budget des familles en la matière, donc il y a des astuces pour réduire la note. Je vous avoue que je me suis pas trop penché là-dessus. Voilà, attendre la liste avant d'acheter, faites le tri, attention au lot pas toujours avantageux, consultez les applis de dons. Pensez à l'occasion, revendez vos livres anciens. Bon, il y a beaucoup de bon sens là-dedans. Bon, c'est un peu le dossier qu'on voit à chaque rentrée. Sauf que là, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'inflation vient aussi augmenter le prix des fournitures scolaires. Donc, ce dossier existe s'il vous intéresse. Moi, la question qui m'a intéressé dans Le Parisien, c'est ça. Cette affaire très mystérieuse. Qui a tué Daria Dougina? La journaliste et politologue russe. Décédé samedi dans la région de Moscou dans l'explosion de la voiture de son père, donc c'est un attentat, hein. Alexandre Dougin, idéologue russe proche du Kremlin, la Russie accuse l'Ukraine. Voilà. Alors Cyril, était-elle visée personnellement ou était-ce son père qui était visé? Personne n'a la réponse pour l'instant. Les faits, les interrogations, les pistes, oui je sais, il y a l'horoscope là, c'est parce que sinon après j'oublie. Les faits. Le drame a provoqué une onde de choc en Russie. Samedi, près du village de Bolchi Vlasiomi, dans la périphérie de Moscou, la fille du philosophe et idéologue russe, Alexandre Dougin, considéré comme proche des cercles du pouvoir, a été tuée, elle était toute jeune, hein, 28 ans je crois, dans l'explosion de sa voiture. Daria Dougina, née en 1992, donc ça ferait plutôt 30 ans ça, du coup, était journaliste et politologue. J'avais vu 28 ce matin. Selon les enquêteurs du comité d'enquête russe, selon les enquêteurs russes, qui ont ouvert une information pour homicide et qui pointent à l'Ukraine comme responsable, donc pour les enquêteurs russes, ce serait le régime ukrainien qui serait responsable de cet attentat. Un engin explosif a été placé dans le véhicule. De son côté, Mykhailo Podolyak, conseiller en chef du bureau présidentiel de Volodymyr Zelensky, on est du côté des Ukrainiens, dément totalement ces accusations. L'Ukraine n'a rien à voir avec ce meurtre, nous ne sommes pas un État criminel, contrairement à la Russie. Alexandre Dougin était-il visé par cette attaque. Est-ce que c'est lui qu'on a voulu tuer ou est-ce que c'était sa fille? Ça, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Pour Carole Grimaud, en tout cas, qui est une experte en géopolitique russe, la réponse va de soi. Oui, vraisemblablement, c'était lui qui était visé puisque c'était sa voiture. Alors, si on part sur cette piste que c'était son père qui était visé, pourquoi le viser lui? Cette spécialiste explique. Il est adepte de théories fascistes et connu des mouvements d'extrême droite en France d'ailleurs. En 2014, il avait appelé au meurtre de tous les Ukrainiens. Voilà. Pour cibler un petit peu le personnage. Pour Michel Elchaninov, qui est un spécialiste de la Russie, auteur du livre « Dans la tête de Poutine », cette attaque vise l'idéologie poutinienne, le poutinisme extrême. En ce sens, Daria Dugina, elle aussi aurait pu être une cible du projet d'assassinat dans la mesure où elle partageait les idées de son père. Elle avait tenu des propos allant un petit peu dans le même sens. Elle était en faveur d'une guerre des civilisations contre les États-Unis. Si l'enquête, aucun élément à ce jour n'implique directement les services ukrainiens, tous les regards sont braqués sur eux. Après plusieurs mois de guerre sur son sol, l'Ukraine aurait-elle décidé de répliquer sur le territoire russe? Selon les experts contactés par Le Parisien, une telle attaque de leur part après les frappes survenues sur les dépôts de munitions et les bases militaires russes serait en tout cas un signal fort envoyé aux Russes. Le message pourrait être le suivant: nous sommes capables désormais d'attaquer la Crimée comme de tuer un idéologue poutiniste en plein Moscou. Un constat partagé par Carole Grimaud, qu'on citait tout à l'heure. Le message, c'est que personne n'est à l'abri. La portée est symbolique. Les électeurs russes voient la guerre arriver chez eux. C'est pas terminé. Stratégiquement, cela pourrait marquer une étape supplémentaire dans le conflit russo-ukrainien. L'Ukraine pourrait développer une logique d'attaque avec des attentats et donc plus se contenter de défendre son territoire. Mais cette stratégie ne serait pas sans danger. En frappant les Russes chez eux, les Ukrainiens pourraient attiser le désir de vengeance de leur adversaire. Le risque de radicalisation de cette guerre est très important, redoute ainsi Michel Etchaninov. Alors, ça c'est autant d'interrogations. Si les Ukrainiens sont derrière cet attentat. Deux autres hypothèses. Hypothèse que j'ai entendue ce matin. Ce ne serait pas du tout un coup des Ukrainiens. Ce serait un coup du pouvoir russe qui, embêté par l'image d'extrémiste de cet idéologue Alexandre Dugin, notamment son image à l'international, aurait voulu se débarrasser d'un élément donnant une trop mauvaise image du régime. Coup double, tu élimines un gêneur, trop extrémiste au goût du Kremlin, et par ailleurs tu fais porter le chapeau aux Ukrainiens, et comme ça tu leur remets un coup sur la tête. Troisième hypothèse, dont certains m'ont informé ce matin, à l'occasion de la revendication de cette action, regardez, troisième hypothèse, je vous montre le papier de la Libre Belgique, qui cite en fait une information du journal britannique The Guardian, revendication par un groupe russe, hein, baptisé l'Armée nationale républicaine, alors a priori un groupe qui n'est pas connu, voilà, un groupe qui en fait dénonce la politique de Poutine. Nous déclarons le président Poutine, peut-on lire dans cette revendication, un criminel de guerre qui a altéré la constitution, déclenché une guerre entre peuples slaves et conduit les soldats russes à une mort certaine et insensée. Voilà. Donc selon le journal britannique The Guardian, qui cite cette revendication, journal qui est assez sérieux, il s'agirait d'un groupe de partisans russes qui tentent de renverser le régime de Poutine par des opérations souterraines. Le Guardian, qui est donc un journal sérieux, indique que l'information n'a pas pu être vérifiée. Voilà. Donc vous avez trois hypothèses pour expliquer cet attentat contre Daria Dugina. Voilà. Je vous lis un petit peu là-dessus, mais bon, je m'attendrai que quelqu'un ait la réponse à toutes les questions qu'on se pose. Hein ? Ouais. Bon, à suivre. On en saura peut-être dans les prochains jours. Enfin, je dis bien peut-être, hein, puisque manifestement, l'enquête est menée par la Russie, donc on en saura a priori ce que voudra bien nous en dire la Russie. Voilà. Bon, en tout cas, je trouvais important de vous en parler ce matin. On s'aère un peu la tête, ça fait combien de temps qu'on est en stream là? Quoi, ça fait quoi, une heure et demie? Vous jugez?
Oh la machine.
Je voudrais pas me jeter des fleurs, mais regardez, une... Ah, au moment où j'ai dit une heure et demie, ça faisait, sans tricher, hein, 1h30 et 10 secondes qu'on streamait. Voilà. C'est ma plus... D'après mon épouse Hélène, c'est ma plus grande qualité, c'est le truc que je sais le mieux faire, je sais à peu près prédire l'heure, assez précisément. Voilà. Mais sans tricher, quoi. Bon, c'est le seul truc que je sais faire à peu près correctement dans ma vie, donc voilà. J'ai dit à peu près 1h30, je me dis, oh, je suis peut-être en dessous de la réalité. Et donc c'était à 1h30 et 10 secondes. Ouais. Belle horloge interne. Merci Mme Gonac, c'est gentil. Voilà. Bon, je sais que vous savez tellement que je vais sur l'horoscope, que vous êtes des dizaines, que dis-je, des centaines, que dis-je, des milliers, que dis-je, des dizaines de milliers, voire des milliards actuellement dans le chat à me balancer votre signe astrologique. Je ne peux pas, je l'explique à ceux qui sont là pour la première fois, du coup jouer à mon jeu, l'un de mes petits jeux dans la matinale, Étienne, à savoir quand on arrive sur la page horoscope du Parisien, le premier, la première à me donner son signe astrologique dans le chat, eh bien je lui lis son signe. Du coup, comme vous avez deviné où je voulais en venir aujourd'hui, je ne vous ai pas surpris, eh bien on va... Je vais vous poser une question sur l'actualité. Le premier qui me donne la bonne réponse, je lui lis son signe astrologique. Voici la question d'actualité. Vous êtes prêts? Alors, on l'a évoqué pendant le sommaire tout à l'heure. Quel est le nombre de médailles d'or remportées par la France aux championnats d'Europe d'athlétisme qui viennent de se terminer? Je vois du 4, je vois du 0. Hop, 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 c'est gagné. C'est Ribon TV qui a gagné. Voilà, c'était 0. Voilà, Chinaz 3. Bisco Switch 5, Powerhead 12, Maxime 9, Morzane 42 qui n'a pas suivi l'athlétisme du tout. Voilà, beaucoup de zéros. Ouais, je remonte un petit peu. Il faut me donner le signe astrologique aussi. Ah non, il faut me la bonne réponse et le signe astrologique, je suis désolé. Eh oui, quelqu'un m'avait donné un zéro là. Ribon, tu ne m'as pas donné son signe astrologique. Il faut la bonne réponse et le signe astrologique. Alors je cherche un zéro avec le signe astrologique. Zéro balance, ça, c'est Bananzer qui a joué ce petit jeu. Pour le coup, c'est ma faute parce que j'ai oublié de vous dire que, bien sûr, la bonne réponse ne suffit pas. Il me faut le signe astrologique en même temps, bien sûr. Donc, Ribon TV, je suis désolé. C'est un peu de ma faute parce que je n'ai pas été assez précis. Mais Bananzer a compris qu'il me fallait le signe astrologique. Donc, du coup, c'est Bananzer qui me donne zéro et balance et qui gagne ce jeu. Bon, pour le coup, je n'ai pas été assez précis. Ribon, désolé. Voilà. Bananzer, c'est parti pour balance. Ça fait longtemps qu'on a... Oh! Mais Ribon TV, il sub en plus. Plutôt que se fâcher, il s'abonne pour un 12e mois d'abonnement. Mais vous avez le cœur des bâtons d'amour, c'est quoi? C'est trop gentil. Ouais. Donc c'est balance. Balance. Alors balance. Cœur, vous risquez d'oublier que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais. Attends, en matière d'amour, si tu peux pas tout dire à ton conjoint, ton amoureux, ton amoureuse... Hein? De la merde un peu. Moi, je pense qu'il faut tout dire, non? Vous risquez d'oublier que toute vérité n'est pas bonne à dire. Non? Je sais pas, en matière de cœur. Réussite. Puis après, on lira quand même Verseau pour remercier Ribon TV. Hein? Réussite des balances. Arrêtez de rêver et revenez à certaines réalités. Utilisez vos qualités. Balance, j'arrête pas de vous le dire. Arrêtez de rêver, les balances. Les balances. C'est vrai, ça. Souvent, je vous le dis, les balances. Forme. Vous serez plein d'allant et dynamique. Ah, ça va en vrai. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat? Tout se dire. Problème dans le couple. Simon, il faut savoir mentir dans le couple, sinon c'est le bordel, dit Anarchiste. Qu'est-ce que c'est que cette philosophie? Le truc, c'est de ne pas dire la vérité ou non. C'est qui veut l'entendre, dit Bachibouzouk. Il faut toujours dire la vérité, sauf quand elle a grosse... Oh, mais ça va pas, non? Qu'est-ce que... C'est fou, ça. Full bullshit l'horoscope. Alex, Axel Grand. Oui, on sait. C'est pour ça qu'on le lit. C'est parce que c'est de la connerie. Hein? Allez, on lit l'horoscope de Ribon TV aussi, qui avait presque gagné, et en plus qui a sub. Verseau, let's go. Cœur, l'ambiance est au calme et à la sérénité. Réussite, vous aurez à cœur de mettre de l'ordre dans vos affaires courantes, de restructurer votre travail, c'est très important. Forme, migraine probable, j'adore. Donc t'as, voilà, t'as tous les Verseaux, les Verseaux qui sont ici dans la matinée Étienne et les Verseaux du monde entier qui vont avoir mal à la tête aujourd'hui. C'est n'importe ta wak, c'est pour ça que c'est très drôle. Merci aux Parisiens, merci à l'horoscope, merci à Ribon TV et merci à Bambou Banga qui vient de prendre un deuxième mois d'abonnement. Merci à toi. Tu auras dû me mettre ton horoscope, je te l'aurai lu aussi. Donc ça, c'est bon pour le chapeau parisien. Est-ce que je vais me chercher un café? Non, on est en train de... Non, il m'en reste un petit peu encore. Ah! Ici, on parle de tout, y compris de ce qui fâche. Je vous ai déjà lu des papiers sur la crise politique en Italie avec le gouvernement actuel qui n'est plus soutenu par la coalition. Il n'y a rien qui marche. Nouvelles élections législatives. Et l'humanité s'inquiète. Les fascistes aux portes du pouvoir. Alors, finalement, le mot de fasciste, de fascisme en Italie, ça renvoie à une histoire très particulière de ce pays, bien sûr, notamment au régime de Benito Mussolini. Alors pourquoi cette inquiétude de l'humanité? Parce que Giorgia Meloni, dont je vous ai déjà parlé ici, à la tête d'une coalition de droite extrême, pourrait devenir la prochaine première ministre. Donc, une dirigeante d'extrême droite, puisque bon, son parti est d'extrême droite, là-dessus il n'y a pas trop de débat, hein, pourrait effectivement devenir le principal parti de la prochaine coalition en Italie à l'issue des prochaines élections. En tout cas, c'est ce que disent les sondages, parfois les sondages se trompent. L'extrême droite italienne en position de force, dont s'inquiète l'UMA, Giorgia Meloni, c'est cette femme ici, leader de Frères d'Italie, est pressentie pour être la prochaine première ministre. Lisons un petit peu l'article. Si Giorgia Meloni l'emporte avec ses alliés berlusconiens de Forza Italia et d'extrême droite de la Ligue, l'Italie est promise à des heures sombres, estime l'humanité. Sa formation est truffée de nostalgiques de Benito Mussolini, je vous en parlais. Édito à ce propos de Maud Verniol, chemise noire. C'est comment on disait Camille? Camisa negra, camiseta negra, camisa negra. Chemise noire en talon aiguille. 100 ans après la marche sur Rome. Qu'est-ce que la marche sur Rome, c'est le début du régime de Mussolini, ça?
Let's go.
C'est ça? Petite vérif. Je crois que c'est ça, hein. Marche sur Rome. La marche sur Rome et la marche paramilitaire menée par les faisceaux italiens de Mussolini vers la capitale de l'Italie en octobre 1922, ayant pour but en premier lieu d'impressionner le gouvernement libéral alors en place et de faire pression sur la classe politique. Le compte est toujours intéressant de revenir un petit peu sur l'histoire qui éclaire l'actualité. Le contexte de crise dans l'Italie d'après-guerre, tension entre classes sociales, sentiment d'une victoire mutilée, un État libéral affaibli est l'un des facteurs de la montée du fascisme et de sa conquête du pouvoir avec la marche sur Rome. Même si cette marche n'est initialement qu'un instrument de pression illégale sur le gouvernement, elle assure à Mussolini un accès facilité au pouvoir politique. Mais cette marche est surtout un tournant politique pour les faisceaux italiens, puisque ce n'est pas directement par elle que Mussolini accède au pouvoir, donc par cette marche, mais ce sont les dirigeants du gouvernement en place qui le lui confient. Ça, c'est intéressant parce que ça va éclairer la fin de l'éditorial de l'Humanité. Cette victoire politique des fascistes entraîne de fortes répercussions sur l'organisation de l'État italien avec l'instauration de la dictature fasciste des 1925, dictature fasciste qui va disparaître bien sûr avec la défaite de l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale. Revenons à l'édito. Grande favorite des sondages pour les législatives anticipées du 25 septembre, c'est dans 3 jours les amis, Giorgia Meloni, chef du parti Fratelli d'Italia, frère d'Italie je crois, a pris la tête d'une coalition dite de centre-droit qui rassemble également la Ligue de Matteo Salvini et les berlusconiens de Forza Italia. Admiratrice de Mussolini, la candidate d'extrême droite déclare vouloir défendre Dieu, la famille et la patrie, appelle à un blocus naval pour laisser les réfugiés se noyer en Méditerranée, défend une politique pro-riche décomplexée avec la promesse d'un impôt sur le revenu à taux unique. On dit souvent, écrit l'Humanité de l'Italie, qu'elle est un laboratoire, qu'elle éclaire l'avenir de la vie politique française. C'est dire si la situation fait d'autant plus froid dans le dos. Marine Le Pen ne cache d'ailleurs pas son intérêt pour sa cousine transalpine qui deviendrait avec Orban en Hongrie l'un des piliers de l'extrême droite européenne. Le cocktail explosif est le même, écrit l'Humanité, démagogie populiste, fin du clivage gauche-droite, voilà ces comparaisons Italie-France selon l'UMA, gouvernement technocrate pour mener des cures d'austérité, banalisation, révisionnisme, sans oublier les compromissions des partis au pouvoir et autres triangulations pour faire la courte échelle à l'extrême droite. Alors, la France pourra-t-elle déjouer la théorie des dominos? Parce qu'en fait, vous avez compris que l'humanité, à travers la situation politique en Italie, s'inquiète en fait notamment pour la France. La France pourra-t-elle déjouer la théorie des dominos sur laquelle compte Marine Le Pen pour sa conquête du pouvoir? C'est déjà ce qui se joue pour cette première rentrée sociale et politique du second quinquennat Macron. La séquence électorale a permis d'éviter un scénario à l'italienne d'effacement total de la gauche de transformation, puisque vous savez que la La NUP est en position de force à l'Assemblée. Elle a maintenant 5 ans, et là, l'humanité s'adresse à la gauche, en France, pour démontrer qu'elle est prête à mettre en œuvre une révolution écologique et sociale, unique antidote à la peste brune. L'humanité se sert, vous l'avez compris, de cette actualité en Italie, pour lancer un appel à la gauche française en disant « Vous êtes, ça c'est le regard de l'humanité, hein, le rempart, le seul rempart contre la peste brune, contre l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. » C'est le regard de l'humanité. La hulotte du Mexique, merci pour ce 12e mois d'abonnement. C'est merveilleux cet abonnement, c'est toi qui es merveilleuse. Oui, la NUP en position de force à l'Assemblée, comment dire, non, pas en capacité de voter des lois, on est bien d'accord, elle est dans l'opposition. Mais en tout cas, quand tu vois le nombre de députés dont dispose la NUP, et notamment LFI, par rapport à la législature précédente, et la capacité notamment des élus LFI à se faire entendre et animer le débat à l'Assemblée, oui, en position de force pour le débat, pour faire voter des textes, bien sûr, je suis d'accord avec toi, c'est insuffisant. Oui, Beatle 21, je suis d'accord avec la limite que tu poses. Ils partent du principe que la vie politique en Italie serait un laboratoire de ce qui va se passer en France, comme c'était une idée communément admise. Je suis d'accord avec toi. C'est la première fois que je vois cette idée émise, que l'Italie serait un espèce de laboratoire de ce qui se passerait ensuite en France. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'argument, mais voilà. Mais après, je comprends l'inquiétude. Voilà, Arza Varagna va dans le même sens. La culture politique italienne n'est pas la nôtre et l'humanité fait un papier bien trop simpliste. Biohazard, salut Sam, petite question. J'étais tombé un jour sur ta revue de presse rapide pendant la matinale de France Info. Existe-t-elle encore cette année? C'est oui. À quelle heure passe-t-elle? En gros, dès 6h sur France 2, puis dès 6h30 sur France Info, régulièrement dans la matinale, je fais des petites revues de presse, mais voilà, qui avec la même matière, hein, mais qui durent 3 minutes, 3 minutes 30, 4 minutes quand c'est la folie. Donc je vous montre juste les unes. Ici, on va un peu plus loin, bien sûr. Mais bon, en gros, c'est quasiment toutes les demi-heures, je te fais une petite revue de presse. À la rapide. À la rapide. Merci en tout cas, Biohazard. Allez, on enchaîne. On a l'occasion de revenir sur ces élections, puisque c'est dans quelques jours. Hein. Les élections législatives en Italie, est-ce que les sondages se trompent? Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Plein de choses. Est-ce qu'on se fait une petite pause café? Sachez que Malo va nous rejoindre. Donc mon bientôt très grand de 6 ans, fils aîné Malo, qui a lancé une chronique, un rendez-vous quiz Pokémon. Voici le visuel que Malo a fabriqué avec sa maman cet été. Il a lancé ça en juillet, il a débarqué un matin dans le stream. On était en direct de Corse, il a dit « Allez, c'est quiz Pokémon, let's go !» C'est sa passion absolue du moment. C'est comme un dictionnaire vivant, un Pokédex. Malo, c'est sa passion. Et donc, il a débarqué. C'est le 30 août, l'anniversaire de Malo. Il a débarqué un matin avec son quiz Pokémon. Voilà. Et donc, j'ai décrété que tous les subs et les bits qui tombait pendant la chronique Pokémon de Malo. C'était pour lui, et du coup, il est richissime désormais. J'ai déjà raconté cette anecdote hier, mais elle est vraiment très drôle. Récemment, il se bagarrait avec son petit frère, tous les deux, gentiment, hein, pour la possession d'un jouet. Hein, c'est non-stop, du matin au soir. Hein, dès que le grand joue avec un jouet, le petit Solal veut le même jouet. Toujours, systématiquement, celui-là, pas un autre. Donc ça crée des tensions. Et donc ça crie. À un moment, on pense au voisin et on dit « Bon, arrêtez les enfants. » Et je dis « Bon, si c'est comme ça, le gros camion de pompier Playmobil, moi, je le reprends. Redites-moi qui l'a acheté. Hein, » l'argument imparable, quoi. Et là, Malo me regarde et je vois le regard désolé de sa maman. Et Malo qui dit « Ben, c'est moi qui l'ai acheté avec mes subs. » Et c'était vrai, puisque Malo, en fait, a reçu plein de vos subs, de vos abonnements et de vos bits. Voilà, avec lequel il achète des Playmobil, des Lego et des cartes Pokémon. Voilà. Et son premier achat qu'il a fait, c'est un énorme camion de pompiers américain en solde, en plus 50%, Playmobil, qu'il a acheté avec ses subs. Et donc, alors, papa, sûr de son fait, rappelez-moi qui a acheté ce camion Playmobil. Et Malo qui me répond avec le regard de maman derrière en mode « Ah, là, tu t'es planté d'arguments. » Eh ben, c'est moi. Et là, je suis resté comme un con. J'ai dit, eh ben oui, c'est vrai. Ferme ta gueule, papa. Je me suis bien fait avoir sur ce coup-là. Donc bref, Malo, tout à l'heure, je l'ai croisé en montant, lui en descendant. Pas tout seul, hein. Il a 6 ans dans quelques jours. Il était avec la nounou et son petit frère, parti faire des courses. Il m'a dit, papa, est-ce que je peux venir faire ma chronique tout à l'heure? Je lui ai dit oui, pas de nouvelles pour l'instant. Parfois il passe, parfois il passe pas. Ce sera une surprise. Ouais, c'est une vraie anecdote, hein, j'invente pas. C'est drôle. Alors après, là-dessus, je me suis interrogé parce que bon, je trouvais ça trop mignon que, comme il me voit streamer depuis un moment et qu'il est très curieux et que les portes sont jamais fermées ici, donc il passe souvent et tout. Donc ça m'a amusé de voir qu'il se prennent au jeu et qui viennent finalement streamer, qui viennent en tout cas chroniquer sur un stream. Je trouvais ça fou pour son expression orale, pour sa capacité à échanger avec les autres. Donc ça, je trouvais ça vachement sympa. Et puis à un moment, j'ai dit, bon, soyons honnêtes, hein, ça, c'est le travail de Malo. Donc les subs pendant la chronique de Malo, c'est pas pour papa, c'est pour Malo, c'est normal. Et puis après, les jours suivants, il m'a beaucoup parlé de subs et d'argent et de il fallait que je lui ouvre un compte en banque. Hein, je sais pas, certains, j'ai déjà raconté ça une fois, mais 5 ans et demi, enfin presque 6 ans. Mais papa, l'argent des subs que je gagne avec la chronique, il va où? Moi, j'aimerais, il faut que tu me donnes les billets, les pièces. Et je dis, bah non, mais c'est de l'argent électronique, c'est de l'argent numérique, ça va sur le compte en banque. Donc, mais on achèterait des trucs avec la carte de papa, comme la carte de crédit. Hein, donc je ne peux pas te donner des billets, ça ferait trop de billets en plus, il a trop de subs. Trop de subs. Je ne vais pas lui filer des billets, il ne va pas sortir des billets de 50 euros de ses poches, quoi. C'est pas possible. Et donc je dis c'est sur le compte bancaire. Et là, il me relance sur mon compte bancaire. Non, c'est-à-dire que tu n'as pas de compte bancaire, donc c'est sur mon compte. Bon, après, tu me fais confiance, je suis ton papa. On est dans l'honnêteté, la transparence. Et donc, avec ma carte, tu vas acheter des trucs. Donc il voulait un compte. Il voulait un compte bancaire. Et là, je lui dis merde, c'est trop loin, on va trop loin. Hein. 5 ans et demi, 6 ans, et on est déjà sur une réflexion sur l'argent, mon argent. Je dis, non, c'est trop tôt. Je m'en suis voulu. Voilà. Et puis bon, finalement, l'argent, il n'en parle plus. Il est dans sa passion Pokémon. Donc l'histoire des sous s'est passée au second plan. Il a acheté ce camion Playmobil. Il m'a rien demandé d'autre après. Il a laissé tomber l'histoire du compte bancaire. C'est très rigolo. Voilà. Donc il ne reste que le positif de cette histoire. Mais à un moment, j'ai flippé. Je me suis dit, j'ai fait une bêtise. Et bon, de temps en temps, il croise un adulte dans les magasins ou voilà, puis il raconte ça. Et je sais plus, à la boulangerie, j'ai dû faire une fois. Je lui dis bon, bah, est-ce que tu veux un gâteau, un pain au chocolat et tout. Et puis il a dû prendre à partie, interpeller une dame, une cliente qui était là, et il lui disait oui, je le paye avec mes subs parce que je travaille, parce que papa. Avec papa dans son stream. Le regard de la dame, qu'est-ce qu'il fait bosser son fils de 5 ans, cette histoire. Oh, c'est très gênant. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que Malo va peut-être passer. Tout ça, c'est je peux pas l'inventer. Hein. C'est des vraies histoires. Voilà. Bon, je m'interroge sur tout ça, mais bon, ça va. Ça se passe. Heureusement, je suis pas tombé sur un agent de l'URSSAF. C'est tout ce que je peux vous dire. Babylonia 51, merci pour. Oh, c'est mignon. Pour ce troisième mois d'abonnement et ce petit message, une heure à me battre avec les dieux de l'internet, mais ça en vaut la peine. C'est si compliqué que ça pour sub. Bravo. Bon, 1h48. J'ai la croix à vous lire sur le réchauffement climatique. J'ai un dossier justement à ce propos. Donc ça, on est dans le constat, l'inquiétude, ça va pas du tout. Où est-ce qu'on va? Les Échos essayent d'être dans le positif avec un gros dossier là. Comment sortir la France du carbone? Voilà. Parce qu'il y a des solutions, mais poétiquement, elles sont un petit peu lourdes. Et puis, on va se régaler avec l'équipe, parce que l'équipe du lundi s'est truffée de résultats après le week-end de sportif. Il y a des choses positives pour le sport français. Football, MotoGP, tennis. Voilà. Et puis, il y a des choses moins positives, comme les championnats d'Europe d'athlétisme avant les Jeux Olympiques de 2024. C'est pas top. Donc, tout ça, je vous mets de côté rapidement. Je vais aller me chercher un petit refil. Et puis, on finit la dernière ligne droite de la matinée Étienne. Et puis, n'oubliez pas que parce que je vous aime et parce que vous êtes des beaux gosses et des belles gosses, en fin de stream, juste avant le raid, je dévoilerai pour vous, en avant-première, les noms, les identités des trois premiers invités de ma nouvelle émission hebdomadaire, donc qui arrive vendredi, là, 26 août, à 20h sur Twitch, dans la salle à manger avec la bénédiction de mon amoureuse qui me laisse privatiser la salle à manger pour cette émission. Je vous révèle à la fin de ce stream les noms des trois invités. Voilà, parce que c'est vous. Et je ferai le tweet officiel ce soir pour les autres. Voilà le menu de ce qui va suivre. Et certains ont reconnu déjà, vous êtes forts. Est-ce qu'on va manger ? Ouais, bah ouais, on est à côté de la cuisine, donc si on a faim, on ira manger. Si on a envie d'un café, on prendra un café. Si on veut déboucher des bières, on débouchera des bières. Voilà, à la cool, hein. On est pas, c'est pas la télé. Voilà. C'est là que les corps ne correspondent pas aux têtes. Non, je suis chafouin dans ma tête, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Ça tease ! Ouais. Ok. En gros, faire la chronique en faisant une plâtrée de pâtes. Je l'ai fait, hein. La non-gynécologue, qui, je le rappelle, a offert toutes ces cartes Pokémon, je sais que je vais te gêner, l'or de son prénom, qui a offert toutes ces cartes Pokémon d'enfants qu'elle a retrouvées, qu'elle n'utilisait plus, à Malo. Elle m'a envoyé un gros colis par la poste avec deux énormes boîtes remplies de magnifiques cartes Pokémon. Voilà, merci à toi, parce que c'est la teuf à la maison depuis. Voilà. Merci encore. Donc, je vous mets un petit écran de pause. Les amis, on est tellement gentils. Un petit peu de musique et on se retrouve dans 3 minutes maxi avec une petite dose de café pour la fin de la matinée Étienne, les derniers articles, la révélation des invités de vendredi et le raid bien sûr. À tout de suite. Musique pour les abonnés, petite pause publicitaire pour les autres, ne m'en voulez pas, c'est une autre façon de soutenir. Et un petit pipi, oui aussi. Attendez, c'est ce qu'on écoutait tout à l'heure, je crois qu'au début de cette chanson il y a un raw, il y a quelqu'un qui rote. C'est quoi cette chanson ? À tout de suite, je reviens dans 3 minutes. N'importe quoi. Doesn't matter what is said, this old dark cloud is coming round. I try my best to see it through. I'm sorry, I can't be the person that you need to get me through. So yeah, keep the change, 'cause I'm not getting out of here. I'm ready for my close-up. I remember when you rose up just to say that I'm trusting if I can't even trust you. I've been let down and I've picked up a lot of habits I can't kick. It seems I'm running out of luck. I've seen enough, I've seen it all. I've seen the best of you, the worst of me, the rising and the fall. In a house with a mirror in it, tell me what you see, or tell me what you want to. I can fix it with a filter feeling. We're not really free, there's so much pressure weighing heavily. I'm barely breathing. Maybe I should leave.
try and find a crown in my own damn kingdom. Cause I'm so sick of it, feeling so unachieved. And this damn wilderness won't let me rest. Always go the wrong way, still think about it in my sleep. I'm at everybody's doorway, but I can't find my keys. Maybe I should do it your way, seem to want to fight. But the scars under your skin probably look like mine. So emotionless, kick it with a joker's kiss. Lying on a bed, comparing scars for the innocent. Time for the biggest twist. People you thought limitless are living in this mirror, packing punches with us hypocrites, vigorous. Door to door, we seek rapport, trying to find rewards in our vanity. But the truth is, everybody's flawed. So pick up the pieces and crush all the third degree. Cause I'm so sick of it, feeling so unachieved. And this damn wilderness won't let me breathe. Go the wrong way, still think about it in my sleep. I'm at everybody's doorway, but I can't find my key. Maybe I should do it your way, you seem to have a time to fight. But the scars under your skin probably look like mine. Probably look like mine. For the hell of it, progress or elephant. I found my best friend. Hey! Always go the wrong way, still think about it in my sleep. I'm at everybody's doorway, but I can't find my. Maybe I should do it your way. We seem to have a time to fight. With the scars under your skin.
C'est bien ça, vous savez quoi, on va se la mettre de côté pour, ce sera la musique pour le raid tout à l'heure quand on va chercher la destination de raid. J'ai tiré le rideau, le soleil est en train de taper là, la prévision météo disait pas qu'il y avait un aussi beau soleil ce matin sur Paris, ok c'est cool. Du coup pour pas surchauffer, j'ai tiré le rideau, voilà c'est moins lumineux mais on a moins chaud. On rentre dans la deuxième et dernière partie de ce stream, au menu les derniers articles, la croix sur l'urgence climatique. Les échos sur éventuellement les solutions, comment sortir notre pays du carbone, et puis tous les résultats sportifs avec l'équipe. Les lundis, c'est chargé, sinon gavé. Et la révélation en direct, rien que pour vous dans le stream, avec l'annonce officielle, avant l'annonce officielle sur Twitter, des trois premiers invités de ma nouvelle émission hebdomadaire sur Twitch de vendredi 20h, l'hebdo Étienne, retour sur l'actualité de la semaine avec trois passionnés d'actualité. Donc ce sera pour vous, rien que pour vous, avant le tweet et puis un raid tous ensemble. Tout à l'heure, tiens, il y a mon amoureuse qui m'écrit. Je fais attention que la caméra zénitale ne soit pas allumée. Est-ce que tu pourrais commander du café? On n'a plus du tout de stock. Sauf s'il est caché ailleurs que dans la cuisine. Elle m'envoie aussi une copie d'écran. Voilà, je sais pas. Je vois que quelqu'un a proposé des cartes Dragon Ball aussi dans le chat. Manifestement, Hélène est intéressée. Bon. Et elle demande si c'est normal que j'ai ma caméra ouverte quand tu es en pause. Oui. Enfin, donc, Hélène, je te rappelle que tu es au travail, que ton employeur te paye pour être concentré sur ton PC et pas forcément pour regarder mon stream. Donc, qu'est-ce que... Merci. Hélène, elle regarde. Hélène est sub. Elle sub cette chaîne, Hélène. Elle est abonnée. Elle m'envoie son sub de temps en temps. Hélène. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une déclaration à mon épouse ce matin d'amour sur Twitter, dont je suis assez fier. Voilà, pour bien la gêner, je vous en fais profiter. Voilà. Ce matin, donc ça c'est moi quand je pars de France Info pour dire que je suis à la bourre. Donc c'était hier soir avant de me coucher, je commets ce tweet. Demain à la rentrée, Twitch 2.saison 3. Matinale France Info 2.saison 6 qui commence là. Question pour un champion, saison 7 qui commence. Avec mon amoureuse, là il n'y a pas de saison. Je me suis dit, tiens, comment je parle d'Hélène, non, je ne vais pas mettre des saisons, quoi. Hein. Donc j'ai mis pour l'infini. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'elle est toute gênée devant son PC au travail. Voilà, ça c'est fait. Voilà, Hélène qui me laisse privatiser la salle à manger pour mon émission du vendredi soir. Donc ça, c'est vraiment. Ça, c'est cool. Voilà. Je suis en train de lire mes DM sur Twitter, ça va pas du tout. Allez, on continue. Paf, je remercie Renzo Sensei pour l'abonnement à l'instant. Sandex, j'espère que tu vas bien. Merci pour le 11e mois d'abonnement. Bientôt un an. Je ne suis pas ton amoureux, je sais, ça n'est pas son pseudo. Vetard, je ne sais pas si je te remercie. Merci à tout à l'heure. C'est parti. Allez, on continue avec la croix du jour. Face à l'urgence, bah ça c'est l'urgence climatique, entre canicule et orage, feu de forêt et sécheresse, canicule, orage, feu de forêt, sécheresse, tempête, j'ai envie d'ajouter avec la Corse, l'été, qui n'est pas terminé, a donné lieu à une prise de conscience des Français quant à l'ampleur du réchauffement climatique. Regardez dans le chat, là, pile poil, à l'instant, Hélène, mon amoureuse, vient d'offrir à la... un abonnement à la communauté. Elle sub et elle offre des abonnements à la communauté, offerts même à Carbo 3000, précisément. Elle est là. Elle regarde. Elle est vieweuse. Elle s'abonne et elle offre des abonnements à la commune. Merci, ma puce. Donc, hier, on a lu Le Parisien. C'est moi qui deviens tout rouge, du coup. Le Parisien, dimanche, et le journal du dimanche, qui faisait ce constat. À la faveur des épisodes météo extrêmes de cet été en France, eh bien, il y aurait une prise de conscience accrue, accélérée, de la population française du réchauffement climatique. La question, et les spécialistes ne sont pas d'accord là-dessus, c'est est-ce que cette prise de conscience va perdurer, va être pérennisée au-delà et après l'été, ou au contraire, est-ce que ça va juste passer comme ça et on va s'inquiéter pour d'autres choses qui vont chasser cette inquiétude quant au réchauffement climatique, le pouvoir d'achat, le travail, ce genre de choses. Là-dessus, vraie interrogation, et la croix revient un petit peu là-dessus. Manu 6S, merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement. Et Hélène, encore merci pour l'instant. Embrasement, c'est l'édito de Fabienne Lemahieu à ce propos. Il n'est plus possible de détourner le regard. Les effets du réchauffement climatique ont explosé cet été sous nos yeux d'occidentaux impuissants. Au-delà de l'émotion, une mise au pied du mur et une prise de conscience que l'on veut croire. Donc la croix veut croire à cette prise de conscience, à l'instar de notre responsabilité collective et durable. Le retour de la tempérance climatique, quand les fortes chaleurs, quand la sécheresse vont un peu se dissiper dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci Astrosos pour le 3e mois d'abonnement. Merci Winissam pour l'abonnement offert à la communauté. Le retour de la tempérance climatique, associé notamment aux inquiétudes du retour de l'inflation, va favoriser naturellement la baisse de notre attention. C'est la crainte que j'exprimais. Mais, veut croire la croix, quelque chose est en marche. De l'ordre d'un changement de paradigme qui nous oblige tous. Le temps est à l'action et l'attention portée à la rentrée au pouvoir d'achat des Français ne devra pas occulter l'urgence qu'il y a à décarboner notre économie. À l'image de cet été brûlant, le prix à payer en serait écrasant. Réseau Sensei, prenons le temps. On est là pour échanger, on est là pour parler. Faisons un pas de côté. Réseau Sensei, habitué de cette chaîne. Bonjour, je ne sais pas si tu vas me lire, je te lis. Mais je sais que tu as beaucoup de notoriété et j'aimerais parler de ma maladie qui touche 1% des personnes en France, c'est la maladie de Verneuil. Je suis ici pour en parler car il y a beaucoup trop de suicides à cause de ça. Prenons le temps, on est là pour prendre le temps. Je suis en train d'écrire un livre en rapport avec ça. Cette maladie est super handicapante et invalidante et laisse la personne dans une solitude extrême. Alors voilà, au moins j'ai vidé mon sac, je reste dispo pour les gens. Réseau Sensei, prenons. On est en avance ce matin. J'ai été assez rapide. Prenons un peu de temps. Parlons, raconte-nous. Je vais faire une petite recherche en attendant de te lire. Maladie de Verneuil. On va revenir au réchauffement climatique dans un instant. Parlons aussi de vous. Aussi. Hop, allez, dernier. Là, j'ai un article qui a été publié par le CHU de Bordeaux, par exemple. Voilà, ici. Maladie de Verneuil, maladie de peau, décrit le service de dermatologie du CHU de Bordeaux, manifestement décrite en 1854 par le chirurgien du même nom, Verneuil. Les autres appellations de la maladie sont l'hydrosadénite ou hydradénite suppurée. On peut parler également d'acné inversée. Elle se manifeste par des nodules douloureux et des abcès. Elle évolue vers des écoulements de pus, des fistules et une cicatrisation en relief. Elle touche les zones du corps où est présente certaines variétés de glandes produisant de la sueur, les glandes apocrines, c'est-à-dire essentiellement les grands plis. Et c'est une maladie qui dure dans le temps, une maladie chronique. Comme le disait à l'instant notre interlocuteur, le nombre de personnes atteintes serait d'environ 1% dans les pays industrialisés. Maladie qui touche aussi bien les hommes que les femmes, a toutefois une prédominance chez les femmes, qui débute habituellement à l'adolescence ou chez l'adulte jeune, surtout observée au cours de la troisième décennie. La cause exacte de la maladie n'est pas connue. Il ne s'agit pas d'une maladie contagieuse ou sexuellement transmissible. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Prenons un petit peu le temps. Réseau Sensei, est-ce que tu veux... Parlons un petit peu de cette maladie. Jojo nous écrit, et t'écrit à toi. Mon père a eu cette maladie étant jeune, je te souhaite beaucoup de courage. Je sais à quel point c'est horrible. Je vois plein de messages de soutien, des forces à toi, à Réseau Sensei. Je sors encore d'une terrible opération, on m'a retiré la nuque entièrement, dit Réseau Sensei. L'isolement des maladies handicapantes, très bon sujet, qui me touche aussi, dit Bugliner. J'ai cette maladie à petite échelle. Vous voyez la force du nombre. On est un peu plus de 4000 ici. Donc voilà, quel que soit le sujet qu'on aborde, il y a toujours des gens qui connaissent. Margot Cita, j'ai cette maladie à petite échelle. C'est déjà hyper handicapant. J'imagine pas les gens qui l'ont à forte dose. Force à toi, Réseau Sensei. On est aussi là pour ça, hein, pour échanger. Sinon, c'est de la télé, hein, si on peut pas échanger ensemble. J'ai encore perdu un ami il y a un mois de cela, il s'est donné la mort, me dit Réseau Sensei. Ma mère a la maladie de Verneuil, vous voyez, me dit Midorina TV et le psoriasis en même temps, c'est vraiment l'enfer. Voilà, ce que nous dit Réseau Sensei, c'est que les gens qui souffrent de ça puissent en parler. Moi, je ne connaissais pas ça, par exemple. Voilà. On est là aussi pour échanger. Écoute, on t'envoie un maximum de courage et de soutien. Et puis, n'hésite pas à venir nous voir quand ça ne va pas et qu'on puisse en parler. Par exemple, Mr. Zod pose la question à l'instant. Je ne comprends pas pourquoi les gens se suicident suite à cette maladie. Est-ce que c'est à cause de l'isolement de la société ? Pendant que Whis on voit ce message dans le chat, force à tous ceux qui traversent des périodes difficiles, pathologies, famille. Voilà. Moi, le message que je peux te donner en tant que moi qui ne suis pas médecin, c'est en tout cas de venir nous voir et de discuter avec nous quand ça ne va pas, quand le moral en prend un coup. Quoi. Est-ce que tu as des éléments de réponse à Mr. Zod qui dit est-ce que c'est l'isolement provoqué par la société qui provoque la détresse psychologique jusqu'au suicide chez certains ? Hazard01 le dit. En même temps que moi, il a raison. N'hésite pas à revenir dans ce chat pour en parler et échanger si ça ne va pas. De manière générale, dit Claude, les maladies qui touchent à l'apparence peuvent être terribles pour le moral. Claude 5 ajoute, vous voyez, on a bien fait de parler de tout ça. Dermatite atopique très sévère ici. 5 ans sous immunosuppresseur. Beaucoup de force et de courage avec toi. Réseau Sensei, désolé pour l'interruption. Ne sois surtout pas désolé, mais c'était obligé pour moi. Alors oui, ça fait 13 ans que je l'ai. Je n'ai jamais réussi à avoir un boulot stable. Les relations amoureuses, sexuelles aussi, les relations sociales. Voilà. 59 opérations, nous dit Réseau de Sensei. Ne sois surtout pas désolé pour l'interruption. Et puis, et n'hésite pas, l'idée de communauté, c'est pas juste un mot. Hein. Sur Twitch, c'est aussi ça. C'est de pouvoir parler ensemble de l'actualité, de tous les sujets d'actualité avec intelligence et respect les uns par rapport aux autres, mais aussi parler de soi. Et quand l'un d'entre vous ne va pas bien, c'est aussi de pouvoir en parler ensemble. Voilà. Donc sache qu'on t'envoie beaucoup de force que tu es avec des amis ici et n'hésite pas à venir nous parler quand ça ne va pas. Donc non seulement tu t'excuses pas d'être intervenu, mais au contraire, c'est nous qui te remercions. Voilà. Alors à l'instant, je vous lis, hein, Stenidor dit parler, c'est bien, mais quelles actions? Je ne suis pas médecin. Stenidor, c'est ce que je disais tout à l'heure en propos liminaire. La seule action que nous pouvons avoir, c'est ici un soutien psychologique à notre tout petit niveau. Quoi. Je suppose que il y a un traitement médical en cours. Toutes ces opérations qui étaient évoquées à l'instant, bon, c'est pas nous ce que nous allons faire ici, mais on peut à notre tout petit niveau déjà tendre une oreille à quelqu'un qui manifestement souffre. C'est assez évident. D'isolement social, quoi. Voilà. Merci à vous pour le petit message. Je reviens à ce dossier de la Croix. Donc, vous l'avez compris sur le réchauffement climatique, la question c'est est-ce que cette prise de conscience peut être accélérée, plus importante pendant l'été au vu des épisodes météo extrêmes qu'on vient de connaître, est-ce qu'elle va durer dans le temps? De rien, Réseau Sensei. En tout cas, pour le gouvernement, ça n'est pas assez. C'est le regard de la Croix sur l'action de ce gouvernement sur cette question du réchauffement climatique. C'est page 3 dans la Croix ce matin. Je vous le lis pour le gouvernement. Un été à courir après le dérèglement climatique. Pressé par les catastrophes météorologiques que je viens d'évoquer, le gouvernement, écrit la Croix, improvise une réponse politique au gré des incendies, des sécheresses, des orages. Les cellules interministérielles de crise mises en place lui valent des critiques de l'opposition écologiste qui regrette un manque d'anticipation. Je remercie dernier sub, Sam85, merci beaucoup pour le 8e mois, petit nuage pour le 2e mois d'abonnement. Soukrou Malalachou, je ne sais plus si je t'ai remercié, merci pour le 10e mois. Non, je ne t'ai pas remercié. Foute03 a offert un abonnement à la communauté, merci à toi, je n'avais pas vu. Et Nacre26 vient d'offrir également 5 abonnements à la communauté, merci à tous. Lisons cet article de la Croix. La maison brûle de plus en plus. Vous vous rappelez des propos de Jacques Chirac il y a longtemps. La maison brûle de plus en plus et on lui a carrément tourné le dos, dit Nicolas Thierry, député Europe Écologie Les Verts de Gironde. Alors que le dérèglement climatique s'invite au cœur de toutes les conversations familiales, l'action politique en France semble agir à contre-temps, estime cet élu. Alors que plus de 60 000 hectares de forêt, ce qui est gigantesque, sont partis en fumée depuis le début de l'été dans l'Hexagone et que les épisodes de sécheresse ont imposé des restrictions d'eau dans quasiment tous les départements français, hein, le gouvernement a multiplié les cellules interministérielles de crise. Ces annonces destinées à parer au plus pressé illustrent, selon l'opposition écologique, le manque d'anticipation face au péril climatique. Nous sommes entrés dans un nouveau régime climatique auquel il faut apporter une réponse politique. Pour cela, il faudrait déjà sortir de la communication, cingle Nicolas Thierry, l'élu écologiste qu'on citait au début de l'article. Selon lui, des mesures immédiatement applicables, tiens donc, des mesures immédiatement applicables, comme la réduction de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes et la baisse de TVA sur les billets de train auraient pu être prises. Je crois qu'il y a des pays européens qui ont pris ce genre de mesures récemment concernant le train. Le sujet est de préparer notre société au réchauffement climatique et à ses conséquences, dit Jean-Marc Zulesi, qui est qui du coup? Ah, c'est un autre élu écologiste. Avant de s'attarder sur deux mesures qui permettraient d'avancer sur la voie de la sobriété sans céder à la décroissance. Donc, des actions possibles, des pistes existent, nous dit la Croix, et c'est exactement le dossier que proposent les Échos ce matin. Alors, les Échos, dont le principal titre de une est consacré à autre chose, je ne suis pas un amateur et un spécialiste de vin, donc je vous le laisse si ça vous intéresse. Les vendanges qui débutent dans un climat d'exception, bon. Si vous aimez le bon vin, ça va vous intéresser. Malgré le gel, la grêle et la canicule, la récolte précoce s'annonce de très bonne qualité. Ce serait même exceptionnel en Champagne. Bon, je ne vous lis pas ce dossier, mais si ça vous intéresse, c'est à lire dans Les Échos. Non, je vais vous lire ça, moi. Comment sortir la France du carbone? La neutralité carbone que la France doit atteindre, notre pays, d'ici à 2050, pose un redoutable défi au gouvernement. Celui de rendre deux fois plus rapide la baisse des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. L'exécutif mise sur une future loi qui fixera les cibles à atteindre filière par filière et territoire par territoire. Une vaste concertation doit être lancée en vue de bâtir cette nouvelle loi énergie-climat. Voilà où on en est de la réflexion politique au niveau du gouvernement. Dans le détail, ça donne ça. Gros article dans Les Échos, les défis du gouvernement pour décarboner la France, pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, puisque c'est l'objectif. Le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre doit doubler. Une vaste concertation doit être lancée en vue d'une nouvelle loi énergie-climat, soyons optimistes, espérons qu'il y ait des trucs là-dedans, qui définira filière par filière, territoire par territoire, les objectifs. Une sécheresse historique, des canicules qui se succèdent, des dizaines de milliers d'hectares ravagés par des incendies difficilement contrôlables. Cet été, l'évidence de la crise climatique s'est affichée partout en France, personne ne le nie ça, mettant en avant plus que jamais l'urgence d'y faire face. C'est l'un des plus grands défis de ce quinquennat, je pense que tout le monde sera d'accord. Si elle veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, la France doit rendre deux fois plus rapide, je vous le disais, la baisse de ses émissions de gaz à effet de serre. La question, c'est comment on arrive à ça. Entre cette année et 2030, elle devra se débarrasser de 16 millions de tonnes équivalent CO2 chaque année, soit une baisse de 4,7% par an, alors qu'elle a éliminé 8,1 millions de tonnes, soit une baisse de 1,7% par an depuis 2010. Donc vous voyez que l'effort doit vraiment s'accentuer. C'est le Haut Conseil pour le climat qui fait ses calculs. Cette nouvelle cadence est dictée par la législation européenne sur le climat qui a été adoptée en juillet 2021, sur laquelle la France doit s'aligner. Cet objectif doit être débattu en France au Parlement, ce qui va imposer une accélération donc sans précédent dans l'ensemble des secteurs, préviennent les experts de ce Haut Conseil pour le climat. Or, si la réponse politique progresse, dit ce Haut Conseil de notre pays, elle reste encore insuffisante, c'est ce que dit le dernier rapport du HCC. La première ministre Elisabeth Borne, que le chef de l'État a chargé de piloter la planification écologique, ce qui est pour le coup une première sous la Ve République, a promis de donner à cette urgence des réponses radicales, ok, lesquelles, on attend, lors de sa déclaration de politique générale début juillet. Elle a confirmé que chaque ministre aurait sa feuille de route, une vaste concertation, donc là on est dans cette phase, vous l'avez compris, hein, discussion, échange, concertation, doit être lancée en vue d'une nouvelle loi climatique, texte qui définira filière par filière, territoire par territoire, les objectifs de baisse de gaz à effet de serre et les moyens mis sur la table. Pour tous les grands secteurs pollueurs, l'enjeu de transformation est énorme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pollue le plus aujourd'hui en France ? Aujourd'hui, celui des transports reste de loin le plus émetteur, avec 30% des émissions en 2021. 30% pour le secteur des transports d'émissions de gaz à effet de serre. Suivi de l'agriculture et l'industrie, avec 19% chacun. Des bâtiments, les bâtiments, 18%, et de la transformation d'énergie avec 11%, et enfin le secteur des déchets, 3%. Voici les secteurs où on peut agir, on doit agir. Beaucoup d'outils sont là, comment agir ? Les pistes existent, nous expliquent Les Échos ce matin. Pour emmener la France vers la neutralité carbone, parfois très élaborée comme le plan de transformation de l'économie française qui est proposé par un groupe de réflexion qui s'appelle The Shift Project, qui décrit secteur par secteur la façon dont l'économie peut être décarbonée. Les Échos nous explique que les recettes, on les connaît. Après, il faut les mettre en œuvre, bien sûr. Les observateurs insistent, c'est dans les transports, donc. Les bâtiments, l'agriculture, que les choses peuvent et doivent bouger le plus à court terme pour réduire ces émissions. Ainsi, dans les logements et le tertiaire, où le potentiel d'accélération est immense, derrière le chiffre de 700 000 rénovations énergétiques de logements visées par an par le gouvernement, l'enjeu de qualité s'avère essentiel pour que ces rénovations permettent d'aboutir à des vraies réductions de besoin d'énergie. Il ne s'agit pas de remplacer les fenêtres, il ne s'agit pas de refaire la toiture, mais d'isoler entièrement et de décarboner la chaleur, c'est-à-dire de changer les équipements de chauffage pour faire en sorte que ceux marchant aux énergies fossiles disparaissent définitivement au profit d'énergie bas carbone. Vous avez une interview justement du directeur général du Shift Project, le groupe de réflexion que j'évoquais à l'instant, qui dit ces mots. La reconstruction nécessaire aujourd'hui en la matière est tout à fait comparable à celle de l'après-guerre. Donc ça montre un petit peu l'ampleur de la tâche. Que manque-t-il pour que les choses bougent ? J'essaye au fil de mes lectures dans les articles de voir concrètement, au-delà de l'inquiétude, du stress, de l'angoisse par rapport à tout ça, comment on peut faire ? Quelles sont les pistes ? Quelles sont les éventuelles solutions ? Que manque-t-il pour que les choses bougent ? Réponse de Mathieu Ozanneau. Tout est là, sauf l'essentiel. Emmanuel Macron a parlé de planification écologique, des engagements écologiques, des engagements très élevés sont pris par l'Europe et par la France en matière de décarbonation et de sobriété énergétique. Certains mécanismes utiles sont déjà en place. Mais pour l'heure, manque encore, certains disent le courage politique dans le chat, la clé de voûte, un discours construit de vérité, bah c'est exactement ça, un discours construit de vérité sur ce qu'implique concrètement la décarbonation et la lutte contre le réchauffement. Le plan, en France, le plan, la planification, hein, est né de l'après-guerre. La reconstruction nécessaire aujourd'hui est tout à fait comparable. Nous avons un effort de paix historique à accomplir. Comment faire passer de telles politiques relance les échos ? À Mathieu Ozanou, réponse. Il faut convaincre que les changements profonds nécessaires sont inexorables, qu'il y a tout à gagner aussi à être la première nation qui ouvrira le chemin. C'est une réponse à tous ceux qui me disent régulièrement dans le chat « Aucun intérêt à faire des efforts en France. On pollue beaucoup moins que les Chinois, que les Américains. Attendons qu'ils fassent quelque chose. Ça ne sert à rien de toute façon. » La réponse de Mathieu Ozanou, c'est « Il y a un intérêt à être la première nation à ouvrir le chemin. » Il n'explicite pas, je pense, un intérêt peut-être économique, hein, en développant les technologies, les nouvelles façons de produire avant les autres. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Je vous lis un petit peu, et puis on enchaîne avec le sport. Et on finit avec le sport. Merci Mamie Feuillage pour le Mamie Feuillage pour le 12e mois d'abonnement. Alors, c'est parti pour les propositions. Développer le train, ne pas avoir les trajets à 350 euros, l'aller-retour pour deux personnes, dit Chépifan, par exemple. Moi aussi, Mickaël, je vous aime. Salut, Missaline. Ouais, je sais pas, ça me paraît pas mal de prendre de l'avance sur les technos écolos de demain, me dit Chiffon Noir. Bravo Whisky nous dit, chaque pays dans le monde a une part de son émission de CO2 en Chine via l'importation. Donc il ne faut pas tout mettre sur le dos des Chinois. Changement radical de société, voilà ce qu'il nous faut. Pas seulement des baisses par-ci, par-là, nous dit Volker MacLeod. Chacun doit participer à son niveau car il faut trop de temps en politique pour avancer. Dinacre 26 qui a offert 5 abonnements à la commune tout à l'heure. On est tous acteurs. On a un bonjour de Chine, je pense, de Baptismologie, qui dit bonjour de Taipei en train de manger le repas du soir en quarantaine. Force à toi, mon ami. Go transport en commun gratuit, dit Igesa. On est un des premiers consommateurs de produits chinois, dit Albert 38. Donc limiter nos gaspillages énergétiques en limitant notre consommation limitera les dépenses énergétiques chinoises, par exemple. Chucky Max, j'arrête pas à le dire, mes potes, depuis 5 ans, faudra que l'Union européenne fonce vers l'écolo. La nation qui sera majeure dans ces technologies revendra son savoir-faire au monde entier. Réduire la consommation de viande en supprimant les élevages intensifs pour passer à des élevages durables et responsables. Certains ont fait le calcul, hein. Si on baissait globalement, nous tous, notre consommation de viande, ça aurait un impact très concret sur les émissions de CO2 en France, par exemple. Ça, c'est calculé. Je vous lis, je suis en train de vous lire. Hein, Loulou, JCDP, Paris-Toulon, avion, 1h, 32 euros avec EasyJet, train, 4h, 120 euros. Voilà. Et on nous demande des choses, mais encore faut-il qu'économiquement, ce soit tolérable pour le budget de chacun. Je vous lis. Hein. Et on passe au sport après. Les Kenshin, on vient au train. dont vous parlez beaucoup et vous avez raison. On voit bien l'encouragement à la surconsommation quand un trajet en avion est généralement beaucoup moins cher qu'un trajet en train qui est, lui, moindre en empreinte carbone. J'envisage un trip en Europe en train pour cette question-là. Je paierais 3 fois plus cher que l'avion, c'est déroutant. Mais oui, il y a quand même un truc qui ne va pas. Il faut insérer les plus démunis dans la transition écologique, nous dit aussi Kletos Bright. C'est toujours à eux qu'on demande de faire les efforts et pas assez aux plus riches. Ce matin, je voyais un chiffre fou qu'on a évoqué dans la matinale de France. Il faut que je suis allé vérifier tellement il me semblait fou. Attendez. Il faut que je vous trouve le truc parce que c'est fou. C'est une ONG européenne qui a calculé ça. Les jets. Sur l'explosion des vols en jet privé. Attendez, je vais vous retrouver le chiffre. Ah, j'aimerais que vous trouviez le chiffre. ONG, nombre, jet. J'ai trouvé ce matin en 2 secondes. Voilà, c'est trouvé. Bah, sur France Info. Quick. Donc, les vols des jets privés font polémique. On en parle beaucoup en ce moment. Le ministre des Transports, Clément Beaune, ce week-end, on reste à voir. S'il y aura une suite à cette réflexion à voix haute, a dit qu'il faudrait peut-être un petit peu s'occuper de réguler les vols en jet privé en France. Donc ça, c'est un avis qu'il a émis. On n'en est pas encore au projet de loi. Qui émettent jusqu'à 20 fois plus de gaz à effet de serre qu'un avion de ligne. Le chiffre que je cherche, il est où ? Ah, je l'ai trouvé tout à l'heure. Ah voilà, c'est ça. Selon une ONG, voilà, européenne je crois, un avion, ça c'est, ce chiffre, je suis allé le vérifier tellement je le trouvais fou. Un avion sur 10 qui décolle depuis la France sera un jet privé. Aujourd'hui en France, un avion sur 10 qui décolle serait un jet privé. Un avion sur 10. C'est énorme. Voilà. Vous en êtes ouais. 20 fois de plus par passager, hein, par passager, je pense. Mais un avion sur 10. Vous les voyez, les avions dans le ciel, hein, les gros avions, ben, 1 sur 10, c'est un jet privé. Voilà. Je trouvais ça fou, je suis allé vérifier l'info, c'est une ONG qui a fait ce calcul. Voilà. Et là, c'est évoqué par un site de France Info. Voilà. Pour cette petite pause, je trouvais ça assez fou. Comment c'est possible ? Ben, moi aussi, je trouve ça fou. Little Claw nous donne un autre chiffre. 1% des passagers dans le monde représentent 50% des émissions de l'aérien. Avec les jets privés qui sont pour quelque chose, bien sûr. Voilà. Évidemment, là, on parle de partie de la population qui voyage beaucoup en avion. Ouais. Allez, on va terminer ce stream. Enfin, terminer, non, parce qu'on aura un petit raid tout à l'heure, et puis aussi l'annonce des invités de vendredi soir à la maison. On finit avec l'équipe, et le lundi, l'équipe c'est toujours un gros morceau parce qu'il y a tous les résultats sportifs du week-end. Même si vous n'aimez pas le sport c'est pas que du sport, c'est aussi des histoires d'hommes et de femmes et de belles histoires. Tenez, je ne suis pas un supporter du PSG, je suis breton, mais bon, il y a un tel feuilleton ce qui se passe autour du PSG avec son armada de stars que ça se lit comme un roman. Hein, quoi. Je suis sûr que Balzac aujourd'hui l'écrirait sur le PSG. Total Harmonie, c'est la une de l'équipe sur cette victoire fleuve, 7 buts à 1 hier soir du PSG, pas contre n'importe qui, contre Lille en plus, ancien champion de France, hein, pas la saison dernière, celle juste d'avant. Total Harmonie, bah oui, parce que on a dit ces derniers jours qu'il y avait un petit peu de tension au sein de l'équipe, notamment entre les stars Mbappé, Neymar et Messi. 7-1 à l'extérieur, 7-1 à l'extérieur sur la pelouse de Lille. Au début du stream, il y avait des supporters lillois qui nous disaient qu'ils étaient dans le stade hier soir et c'était chaud, quoi. Après avoir ouvert le score dès la 9e seconde. Alors, il y a un débat. Moi, j'ai trouvé des médias qui disaient dès 8 secondes. L'équipe dit 9 secondes ce matin. On va dire 9, 8 secondes et demie. Au bout de 8 secondes et demie de match, premier but de Mbappé, servi par, je ne sais plus, c'est Messi ou Neymar. On va voir. Après, ouvert le score dès la 9e seconde grâce à une magnifique combinaison. Les stars du PSG pleinement réconciliés. Ah, cette image, elle est belle quand même. Messi, ok, c'est une passe de Messi. La passe de Messi, c'est une dinguerie dans les pieds de Neymar. Pouf, petit lob après. On livrait une nouvelle démonstration. L'équipe un peu enthousiaste, un petit peu après ce match. C'est vrai que c'est un beau match. Ça, c'est une équipe, voilà. Nous dit l'équipe, justement, le PSG en représentation carrément. Hier soir, dans le Nord, c'était appuyé sur une MNM, donc Messi, Neymar, Mbappé, fantastique, capable d'oublier ses différends pour punir son adversaire dans des proportions redoutables. 7-1. Lisons cet article rapidement. Je ne vais pas vous parler que de foot. Hein. Dans l'équipe, il y a d'autres choses. Il y a tout hier. Il y a eu tout hier dans la démonstration du Paris Saint-Germain à Lille, 7-1. Du talent, évidemment. Du génie. Parfois, de la cruauté, de la joie, de la légèreté. Des passes de Mbappé pour Neymar, des passes de Neymar pour Mbappé. 2 buts du Brésilien, 3 du Français. 1 Messi catalan, de la complicité dans le jeu des attaquants parisiens. Du désarroi dans celui du LOSC pour une punition sévère, mais juste, écrit l'équipe. Il y a tout eu, sauf un pénalty pour Paris, ce qui a permis d'éviter une grimace de contrariété de Neymar s'il avait vu Mbappé se saisir du ballon sans même un regard, puisque juste avant le coup d'envoi, Christophe Galtier avait rappelé qu'au cas où c'était nécessaire, le champion du monde serait bien le tireur numéro 1 du club parisien cette saison, puisque il y a eu des bisbilles à ce propos lors du dernier match. Des tensions entre Mbappé et Neymar sur savoir qui tirait les PSG en numéro 1 dans le club. Une polémique s'était poursuivie sur internet après quelques likes de Neymar. 8 jours après avoir étrié Montpellier 5-2 en tirant la tronche donc, les Parisiens ont abandonné leur ego à Lille pour offrir un spectacle comme ils n'en avaient plus livré depuis longtemps. Il a fallu donc 9 secondes, certains médias disent 8, allant l'avant-centre parisien pour ouvrir le score, soit le but le plus rapide en Ligue 1 depuis 1992 et celui inscrit en 8 secondes par Michel Rioux avec Caen. C'était contre Cannes à l'époque. Voilà pour ce beau match. Depuis le début de la saison, ce PSG qui vient de marquer 17 buts en 3 journées. C'est possible ça ? Folie. Paraît intouchable. Ce qui me permet de regarder un petit peu le classement de Ligue 1 pour vous. Vous avez le PSG en tête avec 3 matchs joués et 9 points. Suivi de Lens et Marseille, 3 matchs joués avec 7 points. Lyon n'est entre guillemets que 4e avec 6 points, mais un match en retard. Clermont est 5e. Et puis tout en bas, vous avez Angers, Ajaccio, Reims et Troyes. Je vais vous donner tous les résultats aussi de ce week-end, parce qu'il n'y a pas que les supporters du PSG ici. Il y a Buginer qui était au but de Michel Rioux qu'on évoquait à l'instant, c'est cool. Donc vendredi, il y avait eu Lyon 3 gagné par Lyon 4-1. Monaco-Lens, Monaco s'est incliné sur sa pelouse, battu par les Lensois 4-1. Marseille-Nantes, victoire de l'OM. 2-1, c'était accroché, mais l'OM s'est imposé. Strasbourg-Reims, match nul un partout. Angers-Brest, victoire de Brest à l'extérieur, 3-1. Clermont-Nice, 1-0. Montpellier-Auxerre, hop, quiz. Quiz Pokémon. Ouais. Malo nous a rejoint. Ah, enfin, toute fin de stream. Oh, vous avez la chance. On a failli ne pas avoir de quiz Pokémon aujourd'hui, mais Malo est revenu. D'où tu étais où, Malo?
Au parc, comme d'hab.
comme d'hab. Quel
comme
parc
d'hab.
Okay.
Le parc Monceau, voyons donc.
Mais enfin, voyons donc, en fait. Mais qu'est-ce que tu as fait là-bas?
On a fait un pique-nique.
Ah, mais bien sûr. T'as déjà mangé? Ah oui, le midi 33. Ah. Et t'as mangé quoi?
Des pâtes avec du fromage râpé sec. Il était chauffé, mais il était attaché. J'ai adoré. Avec des saucisses et des brocolis. Non, du concombre. Des brocolis, oui.
Oui, c'était bon, t'as tout mangé?
Non, c'était du concombre, oui.
Ah. Et t'as eu un dessert quand même ou quoi?
Oui, j'ai mangé tout.
T'as mangé quoi en dessert?
Au moins, j'ai mangé au moins 7, 8 ou 9 ou 10 plats.
Ah bon?
Oui.
C'était un buffet?
Non, c'était moi qui avais trop faim.
Est-ce que t'as eu un dessert, mon chéri?
Oui.
T'as mangé quoi en dessert? C'est ça qui m'intéresse, moi.
3 framboises.
Ouais, 3.
Presque un gâteau, un paquet de gâteaux entiers.
Oh bah dis donc.
Tu sais, les petits gâteaux, là.
Oui, je vois bien. Les petits ronds, là.
Oui, ouais. J'en ai mangé un entier.
Ouais, ok. Eh ben, tu vas être grand avec ça.
Oui.
Tu sais que dans quelques mois, tu seras peut-être plus grand que papa, hein.
Un quiz Pokémon.
Ouais, ok, arrête de parler de bouffe. Quiz Pokémon, je vous rappelle que Malo, courant juillet, a débarqué dans ce stream. On était en direct de Corse à l'époque avec un quiz Pokémon. Et depuis, c'est presque tous les jours. Bon, sachant qu'il va retourner à l'école bientôt. Hein. En CP, s'il vous plaît. Donc, quiz Pokémon de Malo. Attention, il faut vraiment maîtriser parce que ce sont des questions parfois difficiles. Combien de questions, Malo? Pas trop, hein, parce qu'on est en fin de stream, là. 10 questions? Ou 5? 5, c'est bien 5. Allez, on va voir. Rapproche-toi du micro, mon chéri. Attention, vous êtes prêts? Concentrez-vous. Première question du quiz Pokémon de Malo, 6 ans, dans quelques jours. Let's go, Malo. Viens par là, mon chouchou.
Vrai ou faux? Argama est un Pokémon cognard.
Orgama, c'est ça?
Non. Vrai ou faux? Argama est un Pokémon cognard.
Vrai ou faux? Est-ce que Argama est un Pokémon cognard? Je vois du vrai, 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 vrai. Je vois du faux. Je vois du vrai, 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 vrai. Je vois faux, 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 vrai, 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 vrai. Vrai, faux, 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 faux.
Il y en a qui pensent la moitié.
C'est un peu moitié-moitié. Hein.
Parce qu'il y en a qui pensent vrai et faux.
Il y en a qui disent les deux, ouais.
C'était vrai.
C'était vrai?
Argama est un Pokémon cogneur.
Tous ceux
qui... J'ai entendu à la télé, Argama, le Pokémon cogneur.
Bon,
c'est... Combat.
Bon, bah, ça a été entendu à la télé. Donc, c'est Pokémon de type cogneur, Argama, donc...
Argama, non, c'est type... Combat.
C'est du combat, voilà, voilà. Donc tout ce qu'on dit vrai, vous avez gagné. Deuxième question du stream Pokémon.
Est-ce que vrai ou faux, Arceus est le seul Pokémon qui peut avoir tous les pouvoirs de toutes les autres avec des plaques?
Moi je le sais ça. Est-ce que Arceus est le seul Pokémon qui peut avoir le pouvoir de tous les autres avec des plaques? Moi je le sais ça. Moi je dis pas. Je le sais, je vois du vrai, 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 vrai. Je vois un peu de faux. Moi, je sais, moi. Moi, je dis vrai, moi.
Hey, qu'est-ce qu'ils disent le plus?
Mais ils disent plus vrai, mais il y a des gens qui disent faux. Il y a des gens qui disent faux.
Eh ben, c'était faux.
Ah bon, merde.
Il y a un autre Pokémon.
Ah, il y a un autre Pokémon.
Quand ce Pokémon évolue, il peut devenir... Il peut avoir tous les pouvoirs de Pokémon grâce à des plaques comme Arceus.
C'est l'évolution d'Arceus?
Non!
Ah non, c'est un autre?
C'est l'évolution d'un autre Pokémon!
Mais il s'appelle comment?
Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai vu dans mon Pokédex!
Sylvalier, disent Sylvalier!
Sylvalier! Si, c'est Sylvalier!
C'est Sylvalier?
Même un livre!
Ah bah j'avais faux!
Sylvalier! On le voit plus!
Ah ouais!
Et en même temps, tu dis Sylvalier!
J'ai perdu là! Je pensais maîtriser là, mais non, je me suis perdu encore! Ibra, B52, merci pour les bits! Je rappelle que tous les bits, tous les abonnements, tous les subs pendant la chronique de Malo, c'est pour. Malo! Troisième question.
Vrai ou faux?
Vrai ou faux? Raquel Citron, merci pour le prime, c'est pour Malo.
Pour réfléchir.
Ouais.
Comment s'appelle le nom de la question?
Ah, je ne sais pas.
Vrai ou faux, la Mass Ball et la Mega Mass. Vrai ou faux, la Mega Mass Ball a comme des oreilles de chat.
La Mega Mass Ball a comme des oreilles de chat, vrai ou faux? Je vois du vrai, je vois Blazek, merci pour le prime, c'est pour Malo. Monsieur DGZ, merci pour les beats, c'est faux, faux, faux. Oh, ils disent beaucoup faux. Oh, ils disent faux, faux, faux. Faux, 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 faux. Ils disent faux. Ils disent beaucoup faux.
Bon, c'était vrai.
T'es sûr?
Oui, la Mass Ball a des oreilles noires de chat.
Oui.
Comme des oreilles de chat.
Oui.
Elle est toute noire, c'est la... De toute façon, c'est la Mega Mass Ball.
Ah oui, d'accord. Ok. Bon ben, on a tous perdu alors. Ok. Des oreilles de quoi t'avais dit?
Des oreilles de chat.
Mais t'avais dit chat tout à l'heure ou t'avais pas dit autre chose? T'avais pas dit un autre animal, non?
Chat, j'ai dit.
Ah, chat, t'avais dit chat? D'accord. Ok. Bon ben, ok, on a perdu.
Je vais faire quelque chose de très difficile.
Oh, attention, là ça va être difficile. Attention, vous êtes prêts?
Vrai ou faux, la Super Bowl est plus forte que la Mega Mass Ball.
C'est facile ça. Est-ce que la Super Bowl est plus forte que la Mega Mass Ball? Vrai ou faux?
Parce qu'elles sont toutes les deux fortes.
Ah, c'est dur, il dit.
Très fortes.
Faux, 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 faux. Faux, 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 vrai. Faux, 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 faux.
Qui a dit vrai?
Il y a par exemple, attends, je vais te dire. Qui a dit vrai, par exemple?
Qui a dit vrai?
Il y a Orata qui a dit que c'était vrai. Orata. Oui, attends, je t'en trouve. Qui a dit
il
vrai?
Il y en a combien?
Il y a Xylo, il n'y a pas beaucoup. Il y a Clémèche qui a dit vrai aussi.
C'était faux.
C'était faux. Ah, désolé Clémèche, les autres, vous avez perdu.
C'était faux parce qu'on entend Megamas Ball.
Elle est plus forte, Megamas Ball ?
La Megamas Ball est plus forte.
Oh, je me disais qu'avec ce nom-là aussi, hein, c'était possible ça. Galdric, merci pour les beats. Blazek, merci pour le Prime.
Une mélange de la Mass Ball et de la Super Ball.
Je suis perdu là, je suis perdu.
Ça crée la Megamas Ball.
Écoute Malo, je propose qu'aujourd'hui on fasse une cinquième et dernière question parce que nos amis sont un peu dépassés. Je pense qu'ils sont en fin de stream et ils sont un peu fatigués. Tu vois, ils ont du mal à mobiliser leurs connaissances sur l'univers des Pokémon. Donc une dernière question. On va dire qui tout double. Tous ceux qui répondent bon, on va dire que vous avez gagné le quiz. Et tous ceux qui répondent faux, là, vous avez perdu. Dernière question.
De toute façon, là,
on fait tapis là.
Là, je veux faire une question sur le dieu de la planète.
Le dieu de la planète. C'est moi ? C'est papa ?
Non, c'est moi.
C'est toi le dieu de la planète ? Non.
Sur les Pokémon.
Ah bon, sur les Pokémon.
Entre Mewtwo et Arceus, quel est le plus fort ?
Entre Mewtwo et Arceus, quel est le plus fort ? Allez, tapis, all-in. Alors, Arceus, Mewtwo, Arceus.
Est le Pokémon dieu et Arceus est le Pokémon qui vient de la Faïs.
La quoi ?
Faïs.
C'est quoi la Faïs ?
C'est où les Pokémon ont été enragés et qui sont devenus les Pokémon barons.
La Faïs ?
Oui, c'est la Faïs temporaire, ça c'est pas...
La faille temporelle. Non, en fait, c'est la faille. Il n'y a pas de... La faille temporelle.
Oui, c'est comme ça.
Ah, excuse-moi, j'avais pas compris. Je t'adore. Alors, c'est qui le plus fort ? Est-ce que c'est Arceus ou est-ce que c'est Mewtwo ? Ah oui, alors c'est qui ? Alors, ça répond Mewtwo, ça répond Arceus, ils savent pas trop. Hein. Ils savent pas trop. Hein. Alors, Malo, c'est quoi la réponse ? Le plus fort, c'est qui ?
Vous avez tous perdu. Il
y avait un piège, vous avez tous perdu.
Les deux.
Les deux, c'est les plus forts.
Oui, en fait.
Oh non, mais c'est trop dur. Attends.
On peut répondre trois questions.
Ah bon.
Vrai.
C'était les deux.
Faux ou les deux.
Ah, vous auriez pu répondre les deux et vous avez tous perdu. Oh, c'est chaud. Dernière question, Malo, c'est moi qui la pose. Qui est le plus fort ? Est-ce que c'est Arceus ou est-ce que c'est Papa ?
Le dieu. Arceus.
Ah, il est plus fort que papa ?
Oui, parce que
merde.
Si tu veux, il peut faire
nul.
Une petite attaque de Pikachu.
Oui, mais moi, tu sais, j'ai fait du Viet Vodao quand j'étais jeune. Hein, je suis ceinture premier niveau de Viet Vodao. Hein, donc.
Mais il pourra disparaître.
Ah ouais,
avec
ça.
Une plaque spectre.
Ah ouais, moi, je sais pas faire ça, moi.
Zut. Pas disparaître parce
merci Jijan Nezokawa pour le sub, c'est pour Malo.
Il peut bien me donner une plaque spectre pour qu'il disparaisse.
Oh zut, merde. Bon, bah, et si je m'entraîne très fort, tu crois que je pourrais battre Arceus ?
Non, parce qu'il peut utiliser une plaque spectre. Ah. Quelqu'un peut utiliser une plaque spectre sur Arceus.
D'accord. Bon, Malo, je voulais te remercier parce que ton questionnaire de ce matin, il est topissime. Est-ce qu'on te retrouve demain matin pour un quiz Pokémon ?
Oui, mais un tout petit peu moins difficile que celui-là parce que là,
ils étaient largués.
Ouais.
J'ai l'impression qu'ils étaient pas très bons ce matin. Hein.
Si, ils étaient bons quand même.
Ah, quand même, t'as trouvé ? T'es gentil. Hein. T'es vraiment gentil. Hein. Je t'embrasse très fort, mon chouchou. Attends, je vais te faire un gros bisou. Hop, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Raconte-nous. C'est encore les vacances, faut profiter. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?
Je sais pas.
Tu sais pas encore ? Ton petit frère, il fait quoi ? Il fait dodo ?
Dodo.
Il fait dodo ? Bon, bah moi, j'ai fini mon stream bientôt. Je finis les résultats de l'équipe sportif. Puis je viens de faire un bisou. Et puis je vais faire une petite sieste après.
Pourquoi une petite sieste ?
Parce que je me suis levé à 1h45.
Pourquoi ?
Tu sais, je t'ai emmené à France Info il n'y a pas longtemps. Je l'ai emmené à France Info la semaine dernière. Je lui ai montré les bâtiments. Oh, il ne voulait plus partir. T'aimais bien, hein ? Qu'est-ce que t'as aimé à France Info ?
Tout.
Tout ? Je t'ai emmené sur le plateau du
20h. C'est quoi, là ?
C'est quoi ? Bah, c'est des Pikachu pour toi.
Oui, mais qu'est-ce qui est écrit sur le mot du doigt ?
Sur le mot du doigt, c'est marqué Poc Pikachu.
C'est qui, Poc Pikachu ?
Peut-être Pokémon, je pense, je sais pas.
Ah, Poc Pikachu, ça veut dire Pokémon.
Je pense, ouais. Bon, ça, c'est du langage de geek. Hein. Bon, je comprends rien tout ça, moi.
Poc Pikachu.
Merci, Mordingus. Et encore un sub pour Malo.
C'est quoi, ça ?
Ça, c'est des... Bon, ça, c'est plein de... des mots, de...
Pika.
Allez, je te fais un bisou et je te dis à tout à l'heure. Je t'aime.
Ouais.
C'est toi le plus fort. À tout à l'heure, mon chéri. Voilà. Merci d'être venu nous voir. Qu'est-ce que tu dis maintenant?
Au revoir. Et à bientôt pour le quiz Pokémon.
Peut-être à demain même.
À demain.
À tout à l'heure, mon chéri.
J'ai cassé le micro.
J'ai cassé le micro.
Je t'aime.
Va-t'en parce que je peux plus allumer la caméra si t'es là. Allez, doudou. Arrêtez de mettre des émotes Pokémon, après ils sont papa.
Malou, Marou. Il faut que je finisse, Malou, parce qu'après il faut que je fasse dodo. A tout à l'heure.
Pourquoi tu enlèves pas
les émotes? Non, parce que j'ai besoin du chat pour discuter avec eux. Malou, à demain, mon chéri. Malou, si tu veux que je te crée ton compte en banque avec les subs, maintenant il faut que tu me laisses finir mon stream.
Arrête de mettre des trucs Pokémon.
Mais non, ils vont faire exprès. Sinon, je vais être crevé. A tout à l'heure, mon chéri. Je t'aime. Bon, j'enlève le chat parce que... Voilà, j'ai enlevé le chat. A demain, mon chéri. Enfin, tout à l'heure.
En tout cas, je peux le voir ici.
Arrête. Non, arrête.
Pourquoi tu m'enlèves pas ce chat?
Non, bon, d'accord, je l'enlève aussi. Voilà, il n'y a plus.
C'est le chat.
Non, ça, c'est rien. Ça, c'est ton visuel que tu as fait avec maman. Je l'enlève aussi. Bon, allez, j'enlève tout. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà. À demain, mon amoureux. À demain. Chichou. Voilà. Maintenant, tu sais quoi faire pour que je parte. 6 ans. Enfin, dans quelques jours. Enfin, bon, c'est... J'adore. Chichouchou. Voilà. J'attends que Solal propose sa chronique bientôt du haut de ses 2 ans et demi, qu'on puisse former une véritable rédaction. Allez, je reviens à la lecture de l'équipe. On s'est penché sur la victoire du PSG. J'étais en train de vous donner le dernier résultat de cette 3e journée de Ligue 1. On était à Strasbourg, Reims à partout. Angers-Brest, Brest a gagné à l'extérieur 3-1. Clermont-Nice, victoire de Clermont 1-0. Montpellier-Auxerre, Auxerre est allé gagner 2-1 sur la pelouse de Montpellier. Toulouse-Lorient, match nul de partout. Rennes-Ajaccio, victoire des Bretons 2-1 sur les Corses. Lille-PSG, on en a parlé, 1-7. Allez, c'est pas tout. Donc, résultat de Ligue 1, je vous l'ai donné. On va parler de tennis aussi. Je suis très content pour cette joueuse française que j'adore, qui s'appelle Caroline Garcia, voilà, qui est... dans une séquence qui est super sympa, la cheveillette pour vous ici, allez, cette belle photo, la joie, la sérénité de la joueuse là, après sa victoire au tournoi WTA 1000 de Cincinnati, voilà, la renaissance, titre d'équipe parce qu'elle est passée par une phase un peu plus compliquée. Merci Lilise pour l'abonnement offert à la commu. Au bout d'une semaine époustouflante, écrit donc l'équipe, Caroline Garcia a remporté le WTA 1000 de Cincinnati face à Petra Kvitova. Après des années de galères et de doutes, et c'est ça qui est beau, la Française de 28 ans fait un retour fracassant au premier plan. Il y a l'US Open de tennis qui va débuter dans quelques jours. On croise les doigts, ce serait formidable qu'elle fasse aussi un joli parcours. Lisons un petit peu cet article rapidement quand même. Parce que l'histoire est belle, tout au long d'une finale qui n'aura jamais semblé pouvoir lui échapper, la Lyonnaise de 28 ans a frappé fort et juste. Elle a pris la tchèque à son adversaire à la gorge en l'agressant au retour et en occupant le filet avec agilité. Rien à voir avec celle que le doute rongeait depuis tant d'années, perdue entre son jeu intuitif ultra agressif et la volonté que les critiques extérieures et les mauvais résultats ont nourri d'y apporter plus de contrôle et de rondeur. Comme si elle ne comprenait plus son propre tennis, tentée par une émancipation hors du cocon familial, longtemps sans oser franchir le pas, fragilisée par un corps qui ne lui laissait aucun répit, d'abord le dos et puis ces dernières saisons les pieds, au point plus bas de sa confiance et d'un classement en chute libre, 79e mondial en mai, son pied rend depuis 8 ans, de crainte d'avoir définitivement lâché le bon wagon, celui qu'elle avait brillamment accroché en octobre 2017 lors d'une fabuleuse victoire en Chine marquée par 11 victoires en 15 jours et 2 titres d'affilée, Wuhan et Pékin qui étaient aussi, je crois, des tournois WTA 1000. C'était face au gratin féminin de l'époque. Ces derniers mois, Caroline Garcia, bien entourée, épanouie dans sa vie personnelle, a remis donc les pièces du puzzle dans le bon ordre. À nouveau vive sur le court, libérée des douleurs, elle peut déployer son jeu d'attaquante. Elle a un très beau jeu qui ne se résume plus uniquement à frapper le plus fort possible dans n'importe quelle direction. Surtout en n'importe quelle position, elle a développé ses approches au filet et amélioré sa qualité de volée. Conclusion de l'article, la voilà avec 2 trophées supplémentaires, le mec qui pense qu'à la politique. 2 trophées parlementaires. 2 trophées supplémentaires à Varsovie le 31 juillet dernier et donc Cincinnati ici. La 17e mondiale actuellement, accompagnée d'un nouveau statut, celle de prétendante au titre, rêvons un peu, au titre de l'US Open dans une semaine. Bravo Caroline Garcia. Ah, au chapitre des moins bonnes nouvelles, les résultats pas fameux des Français et des Françaises au championnat d'Europe d'athlétisme. Aucune médaille d'or, ça fait des décennies que c'est pas arrivé. 9 médailles seulement, aucun titre. La France est, comme attendu, restée loin du compte à Munich, championnat d'Europe d'athlétisme à Munich. L'élan voulu pour quoi ? Pour lancer l'Olympiade vers Paris est quasi inexistant. Rappelons que la France va accueillir bientôt 2024 les Jeux Olympiques. Du côté de l'athlétisme, eh bien, en ce moment, c'est pas terrible. Tout le classement. Vous voyez la barre bleue là tout en bas là ? Ça, c'est le rang de la France au niveau européen en athlétisme à ces championnats d'Europe. 22e, la France est mal barrée pour les JO, écrit Situ75 dans le chat. Ceux qui écrit l'équipe à ce propos, le voici. Des freins, il y en a encore beaucoup. Avant ces championnats d'Europe, l'objectif non annoncé de la Fédération française d'athlétisme se trouvait à 10 médailles. Voilà, là, on n'y est même pas, 9, alors que les Russes et les Biélorusses sont interdits de compétition et donc avaient laissé un petit peu d'espace. C'est évidemment trop peu quand on voit que l'Allemagne a survolé son affaire, bien porté par son public, il est vrai, puisque c'était en Allemagne, 16 médailles, dont 7 en or pour les Allemands et les Allemandes. L'équipe de France, elle, repart de Bavière sans titre, chose qui n'était arrivée que 2 fois depuis 1946, en 1958 et 1982. On va se faire pougner au JO, et voilà, dit KBKO. Alors, on le voit avec l'Allemagne ici, qui recevait les championnats d'Europe d'athlétisme, jouer à domicile, parfois, ça booste un petit peu les athlètes. Comptons peut-être sur ce facteur quand même. Ce matin, là, ce lundi matin, alors qu'on parle ensemble, la France est 22e au classement des médailles, 6e au total de médailles derrière l'Albanie ou la Roumanie, exemple choisi pour appuyer là où ça fait mal. L'important, c'est de participer pour les travaux et l'accueil des JO, dit Landscape. Oui, c'est... Oh, t'as raison, Mathéus 9. Infoservice, au passage pour les habitués du stream de Samuel Etienne, apprenez que Ducati et Macaron a accouché samedi d'un petit Arthur. J'ai vu un tweet passer à ce sujet, Ducati et Macaron, fidèle vieweuse, qui nous avait parlé de temps en temps de sa grossesse et de cet accouchement imminent. Et donc, il y a un petit Arthur. C'était Arthur ? Attendez, j'ai un doute parce que je lui ai répondu. Je vais trouver ça dans mes réponses sur Twitter. Tweet et réponse, c'est un petit Arthur. C'est Arthur. Je peux vous le montrer, hein, c'est un tweet public. Hein. Regardez, bim. Voici Ducati et Macaron, viewers sur cette chaîne. Et le petit Arthur qui est là, c'est trop chaud. Félicitations à la maman. Oh! Voilà, bon, manifestement, ça s'est bien passé. Selon la formule consacrée, la maman et le petit se portent bien. Allez, qui se porte bien aussi, transition magnifique, c'est Quartararo, le champion MotoGP en titre hein, l'an dernier. Et Fabio, il est français. Et ça se passe plutôt bien dans cette nouvelle saison, même si la compétition est très très dure, avec les Ducati, lui qui roule sur Yamaha. Yamaha qui semble un peu moins compétitif, notamment en vitesse de pointe. Il a fait un très beau Grand Prix hier en Autriche, deuxième de la course. Fabio Quartararo a repris sa marche en avant en exposant des qualités de pilotage uniques sur un dépassement d'anthologie. Je n'ai pas vu la course, mais manifestement sur un virage, il a fait une dinguerie pour dépasser un concurrent. Bonne opération en général puisque Quartararo cet ici est en tête avec 200 points. Le deuxième, l'Espagnol Espargaro, 168 points devant l'Italien Bagnaia, 156 points. Signalons que Zarco, Johan Zarco, l'autre Français, est cinquième de la course et quatrième en général, 125 points. C'est beau ça, c'est beau. On parle pas trop de MotoGP en France, on a quand même le champion du monde en titre. Quartararo, c'est un talent pur, juste incroyable. Hyper sympa en plus. Voilà, et avec Zarco, on a deux beaux pilotes en ce moment. Je ne suis pas sûr dans l'histoire de la catégorie élite moto de vitesse en France, on ait eu comme ça deux Français à ce niveau-là ensemble. C'est juste une dinguerie. Voilà. Ah. C'est fini, c'est pas fini. C'est fini pour les journaux de ce matin. On a fait ça en combien de temps, quoi? 2h30? 2h54, voilà, je me suis complètement planté. On va faire deux choses importantes. On va, je vais vous dévoiler en avant-première le nom des trois premiers invités de ma nouvelle émission que je lance vendredi soir sur Twitch à la maison, l'Hebdo Étienne. Trois invités chaque vendredi soir à 20h pour revenir ensemble, ensemble, eux avec moi, moi avec eux, nous avec vous, comme d'hab, sur l'actualité de la semaine. Voilà, et je vais, donc j'ai fait un tweet ce week-end pour annoncer la date, l'heure, etc., le concept, et là j'ai mis des points d'interrogation sur les visages pour faire un peu suspense. Je vais le tweeter ce soir, et comme bah, vous êtes avec moi ce matin, je vais vous le leak un peu. Alors le problème c'est que je n'ai pas encore téléchargé le visuel, que je fabrique avec mon petit Mac, parce que c'est Papy Sam qui fabrique ces visuels comme un grand, donc il faut que je le télécharge. Il faut que je télécharge le bon visuel. Ok, donc c'est ça. Donc visuel 21. Attendez. Alors, télécharger. Ça va prendre un peu de temps, parce qu'après, il faut que je l'envoie sur mon PC. Alors, suspense intolérable. PNG. Ok. Page 21. Résolution maximale. C'est fait maison. Hein. Page 21, j'ai dit ouais. Terminé. Taille. Page 21, télécharger. Ok. Alors, je vois les paris. On veut Rayou, Yael Kabach, c'est sûr. Marie Drucker, Barbie à droite. Marie Drucker, ah, c'est les cheveux. Là, ça vous met sur la piste de mon ami Marie Drucker. Il y en a un qui est persuadé que c'est Jules de Kiss de France Info. Il va y avoir la surprise. Elvis, Monroe et Michael Jackson. Non, c'est pas ça non plus. Donc, c'est téléchargé, je crois. Vérifions. Hop. Et après, il faut que je l'envoie sur le PC. Suspense, suspense, tolérable. Alors, est-ce que c'est le bon Je crois que j'ai le bon. Ok. Donc, ça maintenant, il faut que je l'envoie sur mon PC. Alors, oh, l'handicapé du numérique. Alors, Sam. Ok. Pièce jointe. Bon, vous voulez pas, hein. Elle est là. Voilà. C'est bon, on y arrive. Allons voir la boîte de Papy Sam. Parce que comme je travaille sur PC et sur Mac. Alors. Oh là, mais attends. Comment je vais vous afficher ça, moi, après mais... Je l'ai là, mais il faut que je mette sur PC, zut. Faut que je mette ça. Ouh, merde, je sais même pas comment faire. Attends, ben non, ça va pas marcher si je fais ça. Attends. Mais non, ça va pas marcher. Parce que je l'ai pas mis, comment je vais faire ça? Si je l'enregistre sur mon PC. Ok. Est-ce que je l'ai quelque part? Est-ce que je l'ai mis quelque part? Non, il n'est pas là. Oh là là, je ne vais même pas voir. Bon, moi, je... Attends, il est où? Est-ce qu'il est là? Bougez pas, hein. En tout cas, c'est là. Là, là, comment? Comment je vais vous mettre ça? Parce qu'en fait, je... Ouais. Non, il n'est pas là. Ah si, il est là. Alors comment je vous le mets dans le... Comment je fais? Oh, bah, je vais vous le montrer. On va faire l'ancienne. Je vais vous le montrer avec mon Mac. Voilà, désolé, Papy Sam est fatigué. Le réveil a sonné trop tôt ce matin. Vous êtes prêts? Ok. Suspense. Roulement de tambour. Ok, les trois premiers invités. Voilà. Les trois premiers invités de l'Hebdo Étienne, avec lesquels on va revenir vendredi soir, 20h jusqu'à 22-23h, je ne sais pas moi, sur l'actualité de la semaine sont là. Vous êtes prêts ? Vous n'êtes pas prêts ? Vous êtes prêts ? Vous n'êtes pas prêts ? Vous êtes prêts ? Non, c'est pas Trump. Non. Non. Vous êtes prêts ? C'est là. Ça, c'est moi. Ça, c'est Julien Pin, journaliste de France Info, spécialiste du debunk, hein, de la vérification des news, lutte contre les fake news et tout. Julien Pin. Salomé Saquet, journaliste, spécialiste notamment des questions d'environnement, hyper engagé sur les questions d'environnement. Voilà. Donc Julien Pin, Salomé Saquet et le docteur Patrick Peloux, l'urgentiste, hein, celui qui avait dénoncé le scandale, vous savez, de la canicule qui avait tué tant de personnes âgées en France, Patrick Peloux, qui est un copain. Voilà, les trois premiers invités, des passionnés de l'actu. Donc vous voyez, on a des journalistes, mais pas que des journalistes. Hein, parce que ça peut être aussi des passionnés d'actualité. Donc voilà, et on est sur ce que je vais essayer de faire toute cette année, c'est-à-dire je vais inviter des confrères, des journalistes, certains qui connaissent Twitch, certains qui ne connaissent pas Twitch. Je vais inviter aussi des gens qui ne sont pas journalistes. Je vais inviter des streamers aussi, à condition qu'ils s'intéressent à l'actualité et qu'ils aient envie d'en parler, qu'ils aient envie un petit peu de nous partager, de partager avec nous leur regard sur l'actualité. Voilà. Donc, voici mes trois premiers invités. Je suis très content qu'ils aient envie de dire oui. Pourquoi je suis très content ? Parce qu'ils sont très représentatifs du profil des gens que je vais inviter, c'est-à-dire plutôt des journalistes ou des gens passionnés d'actualité qui ont envie de partager ce regard avec nous. Par exemple, pour la deuxième émission qui est déjà calée, il y aura un streamer. Voilà. Il y aura un streamer, il y aura quelqu'un que vous connaissez bien sur Twitch. Et puis, en train de préparer les prochaines émissions, ça commence vendredi à la maison, tranquille, chill, à la maison, dans la salle à manger. Et avec vous, bien sûr, puisque je ne vais pas laisser tomber le chat, même si j'aurai trois invités à gérer à la maison. Trois caméras, quatre micros, l'ami Joe pour gérer un petit peu la partie technique pour que je n'ai pas justement à m'occuper de la réalisation. Vous savez que j'ai les doigts qui s'en mêlent assez souvent pour justement me concentrer au maximum sur l'info, sur ce que disent nos invités, sur ce que vous disiez dans le chat. Voilà, les amis, vous avez toutes les infos. Voilà, ça vous plaît ? Ça vous plaît ? Ça vous plaît ? Ça vous va ? Ça vous va ? Ça vous va ? Vous essayez de deviner déjà les noms des deuxièmes invités. On verra. Voilà. Bon, et bon, c'est pas terminé, puisque nous, ici, ce qu'on aime faire aussi, c'est systématiquement des raids. J'essaye de streamer tous les jours, et puis je raid systématiquement. Je crois que j'ai fait une faute de français tout à l'heure, mais c'est parce que la fatigue commence à peser. Désolé. C'est découvrir ensemble une chaîne d'un streamer, d'une streameuse qui est en live actuellement. Merci, j'avais pas vu Briax TV pour ton 8e mois d'abonnement. Qui n'a pas beaucoup de viewers, qui n'a pas encore une grosse communauté, qui fait un boulot sympa sur Twitch et qu'on va éclairer grâce à notre raid, grâce à votre raid. Donc j'attends vos propositions comme d'habitude, voilà, dans le chat maintenant, et on va raid l'une de vos propositions. Là, je vous mets une petite musique de pause, celle qu'on a commencé à écouter tout à l'heure qui était cool. 2 minutes maximum, le temps que je vérifie la destination, je ne vous emmène pas n'importe où, et on raid tous ensemble. Restez, parce que en matière de curiosité et humainement, c'est quand même des moments que je trouve assez forts toujours, le raid. A tout de suite, je regarde vos propositions, et dans 2 minutes, on part sur une autre chaîne. A tout de suite. Alors, ça propose quoi ? With a mirror in it, tell me what you see, or tell me what you want to. I can fix it with a filter feeling. We're not really free, there's so much pressure weighing heavily. I'm barely breathing. Maybe I should leave, try and find a crown in my own damn kingdom. 'Cause I'm so sick of it, feeling so unachieved. And this damn wilderness won't let me breathe. Always go the wrong way.
Kick it with a joker's kiss, lying on a bed, comparing scars for the innocent. Time for the biggest twist, people you thought limitless are living in the spirit, packing punches with us, hypocrites, vigorous. Door to door, we seek rapport, trying to find rewards in our vanity. But the truth is, everybody's flawed, so pick up the pieces and crush all the third degree. Cause I'm so sick of it, feeling so unachieved. And this time wilderness won't let me breathe. Who's gonna go away?
Ok. Bon, grâce à vos propositions, j'ai trouvé, il y a une espèce de lobby qui s'est imposé là dans le chat pour une chaîne. Je me demande si j'ai pas déjà raid. J'ai un doute parce que j'ai déjà raid. Je crois que je sais plus. Bon, c'est en train de charger. C'est très sympathique. Je vois de la poudre. C'est un peu flippant d'ailleurs. Je vois de la poudre blanche. C'est chaud quand même. Je vais raid un streamer qui est en train de manipuler de la poudre blanche. Très bizarre. Très... Un petit peu... On va voir. J'espère que ça va bien se passer. C'est peut-être mon dernier stream. Dites bonjour à l'ami qui manipule de la poudre blanche. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. Je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine. À demain dans la matinée, Étienne, pour d'autres aventures. Et plein d'échanges aussi sympathiques qu'aujourd'hui. C'est parti pour la poudre blanche. Je crois que c'est de la farine. Bonne journée à tous, à demain.